RMC, 13h-15h, Stephen Brunch.
Alex Biggerstaff, Stephen Brun.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 13h04 et c'est l'heure de votre émission du dimanche, le Stephen Brunch, avec un programme exceptionnel toute la journée sur RMC. N'oubliez pas, à 20h, les filles en finale de la Coupe du Monde, les filles du basket contre les États-Unis. On y reviendra dans cette émission. On vous attend au 32-16. Et pour parler de ça avec nous aujourd'hui, Maxime Petit avec nous. Salut Max.
Salut les amis. Salut Steve. Très beau maillot là. Tu as un très beau maillot pour soutenir France, les filles. Et pour une fois, c'est toi qui as des résultats sportifs du week-end à raconter. Voilà, moi j'ai pas de compète. Toi, t'as eu ta petite compète hier, non?
Ouais. Alex, comment ça va, Alex?
D'accord. Le gars m'ignore maintenant. C'est sa nouvelle technique.
Mais tu remarqueras que moi, quand je fais une compétition, j'assume mes résultats sportifs.
Ouais,
tu vois,
ça, c'est ton métier.
Bah, toi, voilà. C'est ta reconversion.
Ça va, les amis?
Ça va, Alex, t'es en forme?
Tu es hypé, Stephen, tu es hypé là.
Je suis hypé. T'as plutôt de la tenue de maillot Lakers basketball, qui est l'équipe de France de basket.
Un petit effort minimum, j'ai mis un truc de basket.
Ouais, mais t'es pro américaine alors?
Pas du tout. C'est pour leur porter l'œil.
T'aurais pu mettre un pull de boulot.
C'est pour leur porter l'œil. 11 fois champion du monde, tu vois. J'essaye de faire quelque chose pour aller contre elle.
Ah oui. Ah pardon.
Ouais. T'as compris le mécanisme là?
Oui,
un peu, non?
Je vois.
Non, mais il faut essayer toutes les techniques possibles pour les battre, les Américaines.
Ouais, on va se contenter du niveau du basket de l'équipe de France, non? Ça devrait suffire.
D'accord.
Ok.
Tout va venir. Ok. Alors, d'abord, de quoi ne parlerons-nous pas dans le brunch? Vous le savez, c'est l'habitude désormais cette saison. Stephen, qu'est-ce que tu ne veux pas aborder aujourd'hui dans le brunch?
Maxime en a un petit peu parlé. Il faut savoir que cette semaine, il y avait un très grand tournoi de paddle à Roland-Garros, qui est le alpine majeur tournoi de paddle, où il y avait tous les plus grands stars, les Argentins. En parallèle à ça, il y avait un tournoi caritatif organisé au profit de l'association Princesse Margot, qui vient au soutien des enfants touchés par la maladie du cancer. Et ils ont regroupé des athlètes olympiques et des célébrités. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Parce que je réponds à aucun des deux critères. C'est pas faux. Mais j'étais là. Et hier, c'était les phases finales sur le Suzanne Lenglen. Donc j'ai eu l'occasion de jouer au paddle sur le Suzanne Lenglen avec mon coéquipier qui s'appelle Mika et que j'embrasse. Et là est arrivé un accident industriel. C'est-à-dire que je jouais contre Cyril Hanouna et son coéquipier qui est David Marouani. Tout le monde connaît David Marouani ou pas? C'est le chanteur de Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Voilà. Alors, c'est deux joueurs très corrects, même s'ils sont un peu en dessous de moi. Mais ça reste deux joueurs très corrects. Et là, grosse désillusion. Défaite 7-6.
Aïe, aïe, aïe.
Avec 3 balles de match.
Ils t'ont lavé.
Ils m'ont lavé. Même eux, à la poignée de main, ils n'avaient pas compris qu'ils avaient gagné, tellement c'est le plus gros braquage de l'histoire du paddle.
Et ça me rassure parce que je me disais que tu n'assumais pas de talent. Mais non, parce que tu le préparais pour
Exactement. Voilà, c'est une énorme défaite. Après, les gens sont venus voir en me disant merci Steph d'avoir laissé gagner Cyril et David parce que c'est pour gentil. Le prestige et pour le prestige du tournoi des célébrités, c'était mieux qu'eux aillent au bout. Donc voilà, pour le bien du tournoi, je les ai laissés gagner.
Mais Cyril t'a félicité quand même.
Cyril, bien sûr, toujours dans.
Bien félicité.
Très dans le contact, Cyril.
Maxime, on n'en parlera pas dans le brunch.
On parlera pas malheureusement, reprise cette semaine de la NFL, du football américain, le meilleur sport collectif qui existe sur cette terre. Soit c'est que vous ne vous êtes pas intéressé au football américain, soit c'est que votre quotient intellectuel étant inférieur à 90, wow. Je ne vous en veux pas.
Soit c'est un sport qui intéresse que les Américains.
C'est le meilleur sport.
Tu mets la main sur le cœur quand tu as le drapeau américain, tu croises le drapeau américain toi ou pas?
Non, mais j'avoue, c'est un beau moment. En France, moi ça me choquerait pas, par exemple, qu'il y ait les hymnes plus souvent. Je trouve que c'est des beaux moments à chaque fois qu'ils fédèrent. Mais en tout cas, le football américain, voilà, c'est le meilleur sport collectif, ça commence maintenant. Vous avez des occasions de le suivre en France, que ça soit gratuit ou pas gratuit. Voilà, je vous invite vraiment à vous plonger dans ce sport qui est exceptionnel.
Allez-y, plongez-vous dans ce sport qui n'intéresse que les Américains.
La journée, elle, va être exceptionnelle sur RMC, comme hier d'ailleurs. C'est un week-end absolument fou de sport. Les Bleus, donc, en finale de la Coupe du Monde de basket face aux États-Unis à 20h ce soir, After Live spécial. Il y aura le Grand Prix d'Espagne en Formule 1 à 15h. Il y aura Brest-PSG aussi avec beaucoup d'émotions autour de l'hommage à Éric Roy. Il y aura Toulouse-UBB, choc du top 14. Ce soir, le Grand Prix de Montréal en cyclisme aussi avec le retour de Paul Sexas, la finale de l'US Open. Bref, RMC sera partout et vous fera tout vivre toute la journée. Dans le brunch, le sommaire du jour, on va s'intéresser notamment au Paris Saint-Germain. Pour continuer à gagner, Luis Enrique doit-il ajuster son management? Ça sera le duel du brunch entre Stephen et Maxime. On parlera du coup de cœur de Stephen qui concerne le rugby. Enfin, une vraie affiche en top 14, on l'a dit ce soir, entre Toulouse et l'UBB. On viendra aussi sur la course au Ballon d'Or et ça sera ton coup de gueule du jour, Stephen. Le foot, tu nous dis, est en voie d'NBAisation. Alors ça, c'est très très dur à dire, mais je me félicite d'avoir réussi dès la première. Et enfin, on reviendra bien sûr sur la finale de la Coupe du Monde de basket ce soir entre la France et les États-Unis. Doit-on vraiment y croire pour les Bleus? Rachid Mezian, coach WNBA et ancien assistant de l'équipe de France, sera l'invité du Stephen Brunch. Vous avez les réflexes, le 32-16 bien sûr, pour participer avec nous à l'émission. 06-12-424-424 pour être avec nous sur WhatsApp. Et puis, événement, Stephen, puisque la semaine prochaine, nous serons du côté de Roland-Garros.
Le basket français de retour.
Eh oui, aujourd'hui dans le Stephen Brunch, on vous offre vos places pour vivre la Super Coupe LNB à Roland-Garros, samedi 19 et dimanche 20 septembre prochain. C'est le meilleur du basket français. Et le dimanche accueillera également le match des championnes entre Basketland et Bourges pour une journée 100% basket au sommet. Appelez vite le 32-16. Si vous faites partie des plus rapides, vous gagnerez vos deux places. Ça se passe maintenant donc au 32-16. Allez, c'est parti pour le brunch avec le premier duel de la journée. Pour continuer à gagner, Luis Enrique doit-il ajuster son management? Venez au 32-16 assister la team Stephen ou assister la team Maxime Potti. Avant de passer au débat, je vous propose d'écouter le capitaine parisien Marquinhos qui s'exprime sur le management de son coach Luis Enrique.
C'est pas que cette saison qu'il a pris des décisions fortes. Il a ses manières à faire le management. C'est le groupe de se donner à 100% à l'entraînement pour chercher sa place. C'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il demande. Et c'est à nous les joueurs de se donner un maximum à chaque entraînement, à chaque jour, à chaque match. Tout le monde doit travailler pour avoir sa place dans le groupe et dans l'effectif. Il y a beaucoup de joueurs. Des fois, il y a des joueurs qui doivent rester dehors de la liste, mais c'est au coach de prendre ces décisions-là. C'est à nous de travailler pour chercher nos places, pour faire la concurrence. Il a fait un très bon management jusqu'ici. Ça a marché. Il a sa philosophie. Il n'a pas peur de prendre des décisions fortes quand il faut.
Pour faire face à l'usure, parfois l'autosatisfaction, il faut se réinventer, mais de quelle manière? Peut-on bousculer ses habitudes? À quel point la remise en question doit-elle nous faire sortir de notre zone de confort? Pour continuer à gagner, Luis Enrique doit-il ajuster son management? Stephen, tu nous dis oui ou non?
Non.
Non,
non, non, non, parce que tu me parles d'usure. Je trouve que c'est la troisième année de Luis Enrique, la quatrième année de Luis Enrique. Je trouve que c'est encore tôt pour parler un petit peu d'usure. On essaye de nous dire que dans un groupe en général, pour briser la routine et pas tomber dans le confort, il faut quand on a déjà gagné autant de choses, il faut essayer de changer. Mais ça c'est un management normal que t'essayes de changer. Le management de Luis Enrique depuis qu'il est arrivé, il est pas normal déjà parce qu'il est à part. Je trouve ça bien déjà en termes d'effectifs. D'avoir une certaine continuité, toutes les grandes équipes, il y a une continuité d'effectifs. Et c'est le cas au Paris Saint-Germain, où tu viens rajouter une, deux ou trois pièces pour justement créer peut-être éventuellement cette concurrence, mais il faut une base forte du jeu pour avoir des repères collectifs, et c'est ce que fait le Paris Saint-Germain. Moi, ce que j'aime bien chez Luis Enrique, dans la gestion du groupe et dans la gestion de son management, il doit pas bouger parce qu'il est à contre-courant, il met les mecs dans l'inconfort, ses leaders, il est capable de les foutre sur le et il les met devant la responsabilité. Et peut-être que les leaders, eux, n'acceptent pas, et peut-être que ça leur fait grincer des dents parfois d'être punis, mais quand ils rentrent chez eux, ils se retournent et ils voient qu'ils ont deux coupes aux grandes oreilles sur la cheminée. Donc ils se disent, ce management-là fonctionne. Et moi, j'adore ce que fait Luis Enrique parce que j'ai été dans des équipes avec des managements différents. Quand tu es un joueur lambda, je veux dire, t'es pas le joueur leader du Paris Saint-Germain. Quand tu vois que ton coach est capable de mettre des avoinés, est capable de mettre de punir tes joueurs majeurs, tu mets tout le monde avec toi. Il y a rien de pire dans un groupe de voir qu'il y a des passes droits, de voir que parfois le coach ne remet pas en place ses joueurs leaders parce qu'ils font des conneries, ils font de la merde. C'est affreux de subir ça quand t'es dans une équipe en disant non mais lui il a le droit de tout faire, il est jamais puni et tu tapes que sur les petites mains entre guillemets. Et Luis Enrique il a très bien compris ça, c'est son credo et ça fonctionne à merveille. Après. On me parle de, il y a Mikel Arteta cette semaine qui a expliqué qu'il a voulu changer beaucoup de choses à Arsenal pour apprendre à ses joueurs à jouer avec l'incertitude. Il a décalé l'heure des repas, il a augmenté la température dans les vestiaires, il a changé parfois la direction du bus pour emprunter un chemin différent. Sauf qu'il y a une grande différence entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, c'est que la première ligue est très complexe à gagner en Angleterre, alors que Luis Enrique, s'il se permet des choses comme ça, il sait qu'il a une marge en termes de de championnat de France et qu'il peut se permettre de pianoter sur son effectif.
Il le blaguait justement sur les fameux 7 points de retard.
Exactement, exactement. Et que Luis Enrique, il a une vision toujours à moyen ou long terme. On le sait, février, mars, les matchs importants. C'est que le début de saison, ça cherche, il se cherche, il prépare ses mecs là-dessus. Voilà. Après, il faut pas se leurrer non plus. Les leaders, ils joueront les gros matchs quand ça arrivera février, mars. Dembélé, Kvaratskhelia, Désiré Doué, Vitinha, Joao Neves, ils seront sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'il aura impliqué tout le monde et tout le monde fédérera après lui. Donc changer pour quelque chose qui est habituel, un management habituel, oui, le management de Luis Enrique, il n'est pas habituel, il n'est pas commun, donc il doit rester dans ce qu'il est en train de faire.
Alors Luis Enrique doit-il ajuster son management? Stephen dit non. Si vous êtes d'accord avec lui, venez au 32-16 pour en témoigner. Maxime Poti, toi tu dis que oui, il doit ajuster son management.
Ouais, moi quand je dis qu'il doit l'ajuster, c'est qu'en fait, je suis plutôt d'accord avec l'ensemble des choses qu'a dit Steve, mais là où il y a un point où justement, là où je suis pas d'accord, c'est quand tu as dit ça a marché, ils ont gagné, donc les joueurs vont suivre parce qu'ils savent que ça marche. Et ça, pour moi, c'est le petit truc. Et probablement que Luis Enrique, moi je trouve que son management a un peu changé cette année, en tout cas il a changé quelques curseurs, c'est qu'en fait, dans le sport de haut niveau, à partir du moment où tu considères que ce qui a marché avant va remarcher après, en fait tu vas avoir un temps de retard. C'est être en retard dans le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, c'est justement se dire ok, j'ai gagné, c'est bien, mais comment je reconstruis tout pour aller gagner la prochaine, parce que ce qui a marché par le passé ne marchera pas dans le futur. C'est l'un des grands principes des grandes dynasties justement dans le sport. Par exemple, dans le football américain, voilà, j'en parlais avant, il y a un livre de Bill Belichick qui a gagné 6 titres avec coach mythique des Patriots, qui a fait un livre qui s'appelle l'art de la victoire justement, et dedans il théorise des choses très simple. Par exemple, typiquement, être capable de se séparer d'un joueur, il vaut mieux se séparer d'un joueur trop tôt que trop tard. Tu vois, parfois on dit oui, mais lui, il nous a fait gagner la Ligue des Champions, faut le garder la prochaine année. Non, c'est être capable de dire là, il est au top, mais je pense que l'année prochaine, il sera pas au top. Et au pire, je me tromperai peut-être d'un an, mais je suis capable de le couper avant. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir un temps d'avance en permanence. Et donc, c'est
pour ça. C'est vrai qu'elle a fait avec Barcola.
Mais moi, je pense que actuellement, Luis Enrique est en train d'ajuster son management.
Je suis pas d'accord. Parce que si Barcola avait eu des propos clairs avec Luis Enrique en disant, écoute, le rôle que tu me proposes depuis deux saisons, il me convient très bien, on gagne des matchs, j'alterne avec Désiré Doué, même si je suis pas titulaire sur les gros matchs. Si Barcola avait tenu ce discours-là, Barcola, il serait au Paris Saint-Germain. Barcola, il a dit à Luis Enrique, écoute, qu'est-ce que tu me proposes de plus que l'année dernière ou il y a deux ans? Est-ce que je vais être titulaire sur les gros matchs? Luis Enrique dit, je peux pas te le promettre. Et l'autre, il dit, ça me pose un problème. Et ok, très bien, va à Liverpool.
Oui, mais en fait, il y a une différence entre... Luis Enrique ne va pas changer sa philosophie, justement, d'ailleurs, dans ce fameux bouquin. La philosophie, ta base philosophique, tu ne la touches pas. Et ça, Luis Enrique, il ne la touche pas. Par contre, dans le management, moi, je trouve que les apports qu'ils ont amenés... Pour moi, avant, l'année dernière, tu avais vraiment ton équipe type et tu avais quelques apports, des remplacements de luxe. Là,
c'est
pour
pareil.
Il a fait venir des joueurs pour concurrencer sérieusement.
Gosse ne concurrencera pas Kvaratskhelia. Ferran Torres, il démarrera pas devant
Ferran Torres, moi je pense qu'il va démarrer des matchs.
Tu as envie de te raconter une histoire.
Mais après, ça repose sur la concurrence saine que Luis Enrique a toujours voulu instaurer à ses joueurs. C'est le collectif avant tout.
Mais l'année dernière, on parlait de tout le monde à sa chance. Qu'est-ce qui s'est passé quand Fabian Ruiz, il a pas joué pendant je sais pas combien de mois. Warren Zaïre-Emery, il était exceptionnel. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, mais regarde le match de gardien, Stephen. Lucas Chevalier avait le poste installé normalement. Il a pas hésité à mettre sa faux neuf. C'est tout le monde à ses chances.
Parce qu'il était nul.
Ah oui, mais c'est toujours la prime du résultat avec Luis Enrique. Si t'es mauvais, tu dégages.
Dans ces cas-là, pourquoi Warren Zaïre-Emery joue pas la finale de Ligue des Champions si c'est la prime au résultat? Il est exceptionnel, le gamin. Fabian Ruiz revient, Fabian Ruiz démarre.
Mais moi je trouve que cette année, il a augmenté le curseur sur une forme de violence managériale. Tu vois, genre quand il fait même pas rentrer Kvara sur Bratislava, je trouve que c'est encore un niveau au-dessus.
Mais parce qu'il se projette, il dit Kvara, il a pas besoin de faire jouer Kvara.
C'est de la gestion.
Sur un match en bois comme ça.
Moi je suis pas d'accord justement.
T'as
pas vu la motivation des mecs justement, parce qu'ils disaient attends, là je joue Bratislava en Ligue des Champions. Si je veux finir meilleur buteur de la Ligue des Champions, je vais pouvoir en planter 3 sur ce match.
Justement, parce que Luis Enrique, il est à contre-courant de tout ça. Il veut pas que Kvara se dise à ce match-là, je vais en profiter pour mettre 2-3 filoches pour éventuellement gratter quelques votes de journalistes pour être ballon d'or. Il en a rien à cirer. Des principes individuels et des considérations individuelles de ces joueurs.
L'année dernière, il faisait déjà du management comme ça, mais il donnait quand même un petit peu sur ces matchs-là. Là, cette année, je pense qu'il a encore adapté son management avec des coups comme le fait de pas du tout le faire entrer Kvaratskhelia, le fait de laisser Dembélé en pause sur un week-end de championnat la semaine dernière. Il a changé sa philosophie, il a ajusté son management.
Est-ce que cette décision de laisser Dembélé pour une semaine, elle est pas bénéfique?
Moi, je pense qu'elle est bonne.
Je te dis juste qu'il est en train d'ajuster son management et que c'est une bonne chose. Mais quand il sort Dembélé à la mi-temps, c'est quoi le discours de Luis Enrique? Il dit, pour moi, le PSG n'a rien gagné. On repart à zéro. Ça a toujours été sa méthode, ça, de dire que c'est pas parce qu'on a gagné deux Ligues des Champions qu'on a acquis.
Sa philosophie n'a pas fini, son management s'ajuste. Et moi, je suis d'accord avec ce qu'il fait en ce moment.
Allez, on va prendre Mathéo, 32-16, supporter parisien qui rejoint le brunch. Salut Mathéo.
Salut à tous.
Bonjour Mathéo. Ça va Mathéo?
Ouais,
salut Mathéo.
Ça va très bien. J'écoutais religieusement votre débat. Et bon, d'abord, vous êtes à peu près d'accord. Simplement, vous mettez pas la même définition du terme ajuster son management. En tout cas, moi, je répondrais plutôt non. Je pense qu'il ne le change pas. Parce que vous prenez la première année, il laisse Mbappé là dans le loft. Alors vous me direz que c'est un peu différent, mais déjà à l'époque il y avait une forme, il le sort dès qu'il dit qu'il va partir, etc. L'année dernière, Dembélé contre Arsenal en poule, enfin l'année dernière, il y a deux ans, pardon, la première.
Puni parce qu'il a fait une connerie.
Mais Mbappé, c'est une consigne au-dessus.
Non, mais Mbappé quand il annonce son départ. Ce que je veux dire, c'est que Luis Enrique, il a jamais eu de mal à sortir des gros joueurs. Et quand vous parliez, vous citiez tout à l'heure des livres et des grands préceptes, quand il arrive et qu'il dit Neymar et Verratti c'est dehors, c'est déjà un petit peu quand même un premier signe. Moi, je pense qu'il ne change pas son management. Et je vais aller plus loin parce qu'on parle beaucoup de la brutalisation de son management, c'est ce que vous dites. Mais il faut aussi parler du côté un peu inverse qu'on voit pas trop, calinothérapie, c'est-à-dire que Dembélé. Je sais pas si vous avez vu son interview à Luis Enrique après Bratislava. On lui dit, quel joueur Ferran Torres? Il répond, non, quel joueur Dembélé? Et donc, en fait, c'est dingue, parce qu'il dit à la fois, on n'a rien gagné pour partir à zéro, mais quand Dembélé lui montre ce qu'il veut voir, il lui dit, bah voilà, merci, toi tu reviens.
Ça s'appelle la maîtrise émotionnelle de son groupe.
Et il le fait même hier ou avant-hier quand on dit Zavarni en difficulté, il a été critiqué.
Oui, il le fout pas dans le groupe, mais il défend.
En fait, il est à contre-courant des médias. Quand les médias ont envie d'insister sur un truc, lui il va aller sur autre chose. Louis,
oui, mais c'est pas seulement être à contre-courant des médias, parce que sinon j'ai envie de dire ça pourrait juste être quelqu'un qui est un peu dans un personnage tout le temps absolu. Il y a quand même un intérêt qui est celui du groupe. Et c'est vrai qu'en effet, je pense que Kvaratskhelia, lui, se dit pas oh mon Dieu, il va mettre deux buts contre Bratislava peut-être qu'il aura le ballon d'or. Il dit il y a match contre Brest et Amiens, on gagne 5-0. J'ai aucun intérêt à le faire rentrer.
Fini Mathéo, vas-y.
Non. Et donc je conclurai simplement rapidement en disant que pour moi, il affine pas son management. C'est le même. Alors peut-être qu'un jour il va s'éculer. Peut-être qu'avec le temps, ça va s'arrêter. Mais comme j'avais dit chez nos confrères, chez vos confrères, c'est de la même maison, mais de l'after. Et je le dis souvent. Luis Enrique, aujourd'hui, on est en train de débriefer ce qui est déjà historique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de vous dire, le jour où il partira, et dans deux ans plus tard, même s'il rate sa troisième saison, sa quatrième, sa cinquième saison,
ça sera une légende.
Voilà. En fait, c'est ça. Peu importe si ça termine mal. Et alors évidemment, vaut mieux que ça termine. C'est rare les choses qui terminent bien d'ailleurs dans le football. Mais globalement, le temps lui donnera tout ce dont il a besoin. Donc,
Et Mathéo, quand tu avais tenu ces propos là dans l'after, est-ce que Daniel Riolo était d'accord avec toi?
Il était venu, il avait été paru à côté de moi, il m'avait mis une petite tape sur la tête, mais au fond il était pas totalement en désaccord, mon ami Daniel, parce que je pense que sur la gratitude envers le coach, il était obligé de l'avoir au bout d'un moment.
Maintenant, donc, Mathéo, la question, quand on parle du PSG aujourd'hui, on parle sur des termes, on dit le terme dynastie aussi, quand on cherche à aller prendre une troisième Ligue des Champions d'affilée, c'est ce mot-là qui revient.
Bah, oui, mais imagine que t'en perds une et tu gagnes l'année d'après, 3 en 4 ans, je veux dire City qui est un
ça peut rester une dynastie, ça veut dire que tu as une totale domination sur une période dans ton sport. Mais on connaît les gros cylindrés dans le football européen, et le dernier exemple en date, on peut l'avoir aussi quand on pense à l'Angleterre, c'est l'hégémonie de Manchester City, avec notamment Pep Guardiola. Ça tombe bien, il y a un super documentaire qui est sorti chez nos confrères d'Amazon Prime il y a quelques jours, et ça s'appelle A Beautiful Obsession, qui retrace les deux dernières saisons de Pep Guardiola à la tête de Manchester City. Et on l'entend dire lui-même dans le documentaire, ne pensez jamais que vous êtes inarrêtable, vous pouvez être parfait, et pour une raison inconnue, en un clignement d'œil, vous êtes déjà en train de chuter sans le savoir. Rien n'est éternel. Ça ramène sur cette question de, est-ce que Luis Enrique doit garder sa méthode, ou justement il doit réajuster certaines choses, parce que justement il faut savoir anticiper, ce qui n'est finalement, ce que nous dit Guardiola, ne peut pas être anticipé.
Sa philosophie ne doit pas changer. C'est sa philosophie, elle ne change pas. On a dit ajuster le management, et c'est ce qui, pour moi, c'est ce qu'il est en train de faire cette saison. Il est en train de changer des curseurs, et il ajuste son management pour pas rester dans le confort de ce qu'il a exactement fait les deux saisons d'avant. Et moi, c'est là où je trouve que c'est bien ce qu'il fait.
Après, il ajuste son management. Après, le documentaire de Pep Guardiola qui est exceptionnel, d'ailleurs, il faut absolument le voir. Il devient dingo, Pep Guardiola.
Totalement.
C'est complètement fou. Il dit des choses. Il dit j'ai perdu ma femme, j'ai tout laissé pour vous. C'est complètement dingue. C'est être coach de football. Il faut avoir un pétocasque. Ça te rend complètement dingue. Alors, anticiper, oui, mais le problème c'est que, enfin, ressentir que ça part pas dans le bon sens, c'est très compliqué en fait. Tu le vois pas arriver. Donc
c'est ce que dit Guardiola.
L'anticipation, elle est compliquée à avoir, parce que tu peux très bien avoir exactement les mêmes préceptes, le même management et qui a fonctionné pendant deux ans, et du jour au lendemain, ça ne fonctionne plus. Tu sais pas pourquoi.
Et ça les peut joueurs, être le cas pour Luis Enrique.
Voilà. Et puis après, coach, tu peux avoir plein de principes, plein de méthodes de management, plein de systèmes de tactiques. À la base, enfin, au final, t'es quand même dépendant de ce que proposent les joueurs sur le terrain.
Et puis les adversaires, t'as aussi justement.
Bon, on remercie Mathéo en tout cas d'être passé au 32-16. Mathéo, supporter parisien. Bon, sur ce premier duel du jour, en tout cas, je pense qu'on peut donner raison à Stephen sur les arguments. Mais au final, je me dis, est-ce que c'est pas justement un ajustement de son management que de ne pas l'ajuster, Luis Enrique?
Il fallait me prévenir. Okay.
C'est mon poste honorifique.
T'as perdu en citant le livre de Bellici.
C'est pas la première fois que je perds sur une erreur d'arbitrage. C'est pas grave.
N'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec Steve ou avec Maxime aussi sur le WhatsApp de l'émission. Je vous rappelle 06 12 424 424. Il est 13h25 sur RMC. Dans un instant, le brunch continue et on va parler rugby, puisque ce soir il y a une affiche exceptionnelle, Stephen, et pour ton plus grand plaisir, puisque c'est ton coup de cœur, Stade Toulousain UBB, enfin une vraie affiche en top 14. À tout de suite.
RMC 13h-15h, Stephen Brunch,
Alex Biggerstaff, Stephen Brun.
13h27, on revient sur le Stephen Brun, votre émission du dimanche avec Maxime Potty et Alexandre Biggerstaff.
Yes. J'ai une question pour vous deux.
C'est une question sérieuse.
Par rapport à tous les événements sportifs qu'on a aujourd'hui, est-ce que tu peux me faire rapidement une hiérarchisation de...
Hiérarchie? Alors,
une tier list.
Et derrière, la finale de l'équipe de France contre Team USA à 20h, voilà.
Ça, c'est number one.
C'est number one.
En numéro 2, je vais quand même aller sur Ben Shelton versus Alexander Zverev. En numéro 3, je vais aller sur Brest Paris Saint-Germain.
Ouh, tu le mets devant le rugby.
Oui, bah le rugby, voilà, c'est sympa le rugby.
C'est quoi l'intitulé? C'est quoi l'intitulé du thème?
C'est le prochain débat.
Enfin,
c'est
enfin
Tu caches bien ton jeu. Toi, Maxime?
Non, mais ami rugbyman, ça veut dire que c'est le maximum de ce que vous pouvez proposer à Steve. Et c'est
attends,
numéro 4.
Il va y avoir du répondant dans un instant parce qu'il a entendu ce que Steve a dit. Mais ton top 3 des sports à suivre cet après-midi, ce soir?
Évidemment, finale basket, la Coupe du Monde de basket.
C'est pas la reprise de l'NFL, c'est pas en 1?
Non, parce qu'il y a un titre de champion du monde. Par contre, j'allais y venir. Le Red Zone, reprise du NFL en 2.
Il va pas exister ton Red Zone ce soir, il va pas exister.
Et finale de l'US Open, et c'est là où j'adore l'US Open, comme vous savez, c'est mon grand chelem préféré, à 20h, une finale vers 20h, c'est magnifique, là, au lieu des finales dégueulasses à 14h. Enfin bref, passons.
On en parlera avec Eric Salio tout à l'heure, dans la deuxième heure du brunch. Mais il est 13h28, on va parler rugby, c'est l'heure du coup de cœur de Stephen, Stade Toulousain UBB, enfin une vraie affiche en top 14. Mais d'abord, je souhaite qu'on accueille le chef de la cellule rugby qui va commenter cette rencontre.
J'adore Wilfried Templier.
Bonjour Wilfried Templier.
Salut Wilfried.
Salut à tous.
Comment vas-tu?
Ça va? C'est l'événement ce soir.
C'est ton événement, oui.
Arrêtez tout.
Bah, tu vas nous donner des arguments, Wilfried. Pourquoi c'est l'événement?
Bah, parce que ce sont quand même les deux équipes phares de ces dernières années. C'est le champion de France en titre, quadruple même champion de France en titre, contre le double champion d'Europe en titre. Que ce sont les équipes qui présentent le plus de stars, entre guillemets, dans ce top 14. Et c'est vrai qu'on a eu souvent, on va reparler, des affiches un petit peu dévaluées là, ces dernières années. Là, je vous donne deux chiffres. Sur les 30 titulaires ce soir, 26 sont internationaux. Et sur la feuille de match, si on va sur les 46, il y en a 39. Donc ça veut dire qu'il y a du monde sur la pelouse et que Toulouse est un peu dans le dur dans ce début de saison, de manière extra-sportive, a perdu le premier match, que Bordeaux a mis une raclée au Racing lors de la première journée 64-5. Donc Toulouse a un petit poil de pression et ça, ils aiment ça, les Toulousains, donc ça donne du piment à cette affiche.
Ouais, c'est ton coup de cœur, Stéphane.
Oui, je suis content. Je suis content pour le rugby français d'avoir enfin un vrai choc. Et déjà, merci à Yannick Bru et Gomola de jouer le jeu. On va enfin voir peut-être les deux meilleurs effectifs du top 14 s'affronter. Ça fait un moment que ce n'est pas arrivé en saison régulière. Même si Yannick Bru aurait pu faire un petit effort, hein, Maxime Lucu de porteur titulaire, j'aurais pris aussi, mais je ne vais pas lui en tenir rigueur à Yannick Bru. Voilà. Est-ce que la Ligue n'a pas fait exprès, le diffuseur, de mettre cette affiche très tôt pour justement se donner le plus de chances d'avoir les meilleurs joueurs sur le terrain? C'est le deuxième match de la saison, les mecs sont encore frais, il n'y a pas eu de match international pour fatiguer les joueurs.
Pas de Coupe d'Europe non plus.
Pas de Coupe d'Europe encore qui a pas débuté, donc je pense qu'il y a aussi une stratégie mise en place. Ouais. Le diffuseur, Wilfried, tu me confirmes ou pas?
Bah, disons qu'il n'y a rien d'officiel, mais c'est peut-être bien qu'on commence la deuxième journée qu'un match
exactement,
comme ça.
Exactement.
Au lieu d'avoir juste avant la Coupe d'Europe des équipes qui font tourner ou les tests internationaux. C'est sûr.
Voilà. Mais avec la Coupe du Monde en ligne de mire aussi, quand même. La Coupe du Monde, il y a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de toutes les équipes. Et tu le disais, il y a beaucoup d'internationaux. Est-ce que, moi, c'est ma question, c'est est-ce que tu penses que ça va.
Fini, moi, par contre.
Ah, et ben vas-y, Steve, pardon. on m'a dit d'être plus mal poli en plus.
Mais te laisse pas faire.
Écoute. Non, mais
c'est le coup.
voulais juste savoir si le diffuseur avait fait exprès. Après, il y a une vraie problématique et vous avez vraiment pas de chance dans le rugby parce que vous allez passer au second plan et que vous allez faire des petites audiences parce que vous allez passer derrière le basket parce que le monde du sport en France va regarder la finale de l'équipe de France féminine face à Team USA. Oh, encore une fois. Saison. Bah ouais, mais ouais.
Ils avaient pas parié sur ça, la LNR.
Voilà, quand Eric Bailly, tout ça, ils ont fait le truc. Jamais! Ils ont pas confiance en l'équipe de France de basket. Ils se sont pas inquiétés un seul moment en disant que l'équipe de France pouvait être en finale. Voilà. Alors, pour revenir sur le match en lui-même.
On verra l'audience.
Oui, on verra l'audience, pas de problème.
Hein. Ça peut faire 600, 700, 800 000, ce qui est quand même pas mal pour quelque chose qui est pas en.
Ouais, écoute, le basket a fait 480 hier sur une demi-finale.
Non, mais tu me diras, les deux sont sur chaîne payante, donc ça change.
Non, non, le basket, c'est sur TMC demain.
Ah,
oui, ce soir. Mais alors, pour revenir sur ce match-là, ça va pas nous donner forcément de grandes indications sur l'issue finale, mais. Wilfried a raison de dire qu'il y a une petite pression sur Toulouse parce que Toulouse a perdu le premier match à La Rochelle et que Toulouse, chaque saison, est dans l'optique d'emmagasiner énormément de points très tôt dans la saison. Quand arrive après la Champions Cup et les matchs du 15 de France, ils ont envie d'être un peu peinards, entre guillemets, et d'avoir sécurisé leur place de 1 et 2.
On peut pas faire le même comparatif qu'avec le PSG, il y a quelques points laissés en route, c'est pas très grave. Non,
la problématique, c'est que la Ligue 1 est quand même moins dense et moins concurrentielle que le top 14 et t'as pas les problématique des joueurs internationaux de la Champions Cup qui est à mon avis un objectif important pour Toulouse qui les dernières années ont perdu contre l'UBB. Donc voilà, on va suivre ça. Maintenant il y a toujours des histoires sympas. Voilà, Wilfried a surfé sur la Willis Mania, le Willis Brother comme ils disent. Oui. Tom Willis et Jack Willis, c'est l'histoire qui est sympa à raconter bien sûr.
Moi je suis dégoûté de pas les voir dès le départ là face à l'autre ce soir.
On les verra à un moment donné. Maintenant, il y a un autre truc qui m'intéresse ce soir.
Stephen, tu disais t'es déçu Lucu sur le banc de partout, tu sais très bien l'importance d'un banc.
Je suis d'accord avec toi.
Ça rentre très tôt maintenant. Oui, bien sûr. Voilà, comme dit Fabien Galthié, les finishers.
Mais importants. Il y a un truc que j'ai envie de suivre ce soir, même si le match est 21h05, donc je verrai que la fin après avoir vu la France être championne du monde. Il y a aussi un duel dont on parle.
Deux écrans quand même.
Il y a aussi un duel dont on parle peu parce que Fabien Galthié, quand il est venu chez nous, a dit protéger ces garçons-là. Il y a quand même Mathieu Jalibert versus Romain Tamac, qui sont peut-être.
Ça faisait longtemps.
Et ben voilà, les deux potentiels numéro 10 titulaires du 15 de France vont s'affronter. C'est quelque chose qu'on va suivre aussi.
Max.
Non, mais moi, ma question à Wilfried, c'est, ben là, c'est le choc du début de saison parce que, ben, c'est les plus gros effectifs. Mais moi, ma question, c'est, est-ce que ça sera vraiment pour toi, cette année en top 14, avec la densité du championnat, avec la Coupe du Monde en ligne de mire, qui est la priorité pour beaucoup de joueurs, et tu l'as dit, il y a beaucoup d'internationaux dans ces équipes, est-ce que tu penses que ça sera quand même les deux protagonistes de ce top 14 cette année, ou, ben, en fait, c'est le choc du début, mais ce sera peut-être pas le choc à la fin?
Ah, ils en ont le profil quand même, hein. D'autant que l'UBB a été vraiment vexé de pas se qualifier carrément, hein, en phase finale l'année dernière. Ils sont champions d'Europe et derrière ils sont hors des six. Ils défendent même pas quelque chose en play-off dans le rugby. Donc je pense qu'ils ont vraiment en tête un éventuel Brennus pour cette génération, premier Brennus. Et le Stade Toulousain, bon bah sera toujours là, mais c'est pas décisif ce soir. Mais attention, parce que Toulouse aussi, je vous précise, a du retard dans la préparation. Toulouse a repris
plus tard. Plus tard.
C'est vrai que du match, ça, d'ailleurs, Wilfried, le retard dans la prépa.
Vous les avez vus s'écrouler la semaine dernière en deuxième mi-temps. Ils menaient 24 à 10 à La Rochelle, même 27 à 10 à un moment. Ils perdent 30 à 27. Donc, et l'UBB est vraiment en pleine bourre parce qu'ils ont commencé la prépa.
Il y a combien de décalages sur la rentrée de la prépa des deux?
Ah oui. Trois semaines, ça a repris vraiment au compte-gouttes côté toulousain. On a laissé à certains encore plus de temps. C'est beaucoup, c'est énorme. Tu l'as dit dans la prépa physique.
En fait, l'avantage que l'UBB a foiré sa saison en top 14, c'est d'avoir repris un peu plus tôt et d'être en avance sur tout le monde.
Effectivement. Donc, ça fait vraiment saliver parce qu'il y a tout le monde ce soir, à part quelques blessés, notamment chez les piliers bordelais, Tamé Ifuna et Poirot notamment, voire quelques blessés en troisième ligne côté toulousain avec des Gelonches, Banos ou Barassi derrière. Sinon, je vous l'ai dit, les internationaux sont là et vous parliez de la Coupe du Monde. Eh ben, il y a quand même des affiches comme ça qui compteront pour la liste de Fabien Galthié. On est regardé ce soir, en fait, chez les internationaux dans ces oppositions-là. Donc, c'est des rendez-vous importants.
Wilfried, prépare pas trop ton match ce soir parce que on va te prendre 5 fois 10 secondes pour dire le soir et le temps. C'est tout, ça suffira.
Certainement pas, Wilfried.
Grande soirée à vivre ce soir.
C'est peut-être le seul match où tu auras un casque sur les oreilles, mais tu vas vraiment te passionner pour le match parce que tu vas pas travailler, Wilfried. Je préfère te prévenir, quand même.
Et je rappelle avec Georges Quirino, bien sûr, à partir de 20h ce soir, un immense afterlife avec tous ces ses rendez-vous sportifs, bien entendu. Juste en termes de résultats sur les 5 dernières confrontations entre Toulouse et l'UBB, ça fait 3 victoires à 2 pour l'UBB. Mais
non, toute compétition confondue. 6-4
sur les 10 derniers aussi.
Voilà. Mais
à Toulouse, derniers quand même. Donc
à Toulouse,
à Toulouse, ils ont gagné il y a 2 ans l'UBB.
Ouais.
Ah bah disons qu'il y a 2 ans, ils avaient remodelé l'équipe. Ils gagnent 16-12.
Exactement.
L'année dernière, ils sont venus avec une équipe à peu près similaire. 56-13, ils avaient perdu.
Tu viens de sauver Alex, hein, parce que là, il avait pas cette stat. Il a sorti les stats.
Pas du tout. J'avais les yeux rivés sur mon écran parce qu'on va accueillir Johan au 32-16, auditeur supporter de l'UBB.
Salut Johan. Hey.
Salut, bonjour.
Comment ça va, Johan?
Oh bah très très bien, j'ai hâte d'être à ce soir.
T'habites à Bordeaux toi?
À côté de Bordeaux.
Très bien. T'es confiant?
Confiant, non, faut pas manquer de respect à Toulouse quand même.
elle est incroyable cette phrase.
Faut pas manquer de respect à Toulouse.
Typique des supporters girondins, ça.
Non, confiant non, mais après oui, on a une carte à jouer, ça va être un beau match. Les deux équipes sont complètes, même si nous, effectivement, comme Stephen l'a dit, on met pas Lucu titulaire, mais pas Jrelo, c'est pas non plus Joel Clodo, et ni pareil Duplessis à la place de Doporter, pareil, il est pas venu là parce qu'il avait de la lumière. Hein. Donc voilà, ça va être une belle équipe, ça va être un bel affrontement. De là à dire que que ça va être le match important de l'année, machin et tout. Non, on est en début de saison. On remarque que Bordeaux, ils ont fait un gros premier match, mais bon, face à une équipe du Racing qui est.
Qui est lourdement perdu face à Lyon hier.
En plus, ils ont perdu contre Lyon, mais en plus, il n'y a rien à dire, quoi, sur la défaite. Contre l'UBB, ils ne sont pas là. Après, La Rochelle, La Rochelle, c'est l'inverse. Hein. Ils sont allés gagner à Toulouse, mais quand on voit aussi le match qu'ils font encore à la maison, là, on voit que c'est solide aussi.
Non, donc après, eux, c'était deux salles de.
Ouais, ça, ils ont battu Toulouse chez eux. Après, on voit que c'est deux salles, deux ambiances quand même. Donc, pour ça, moi, je jetterai pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, même si on a largement nos chances ce soir.
Tu jetterais pas la peau de l'ours, tu veux pas l'acheter par contre, la peau de l'ours.
Il veut pas la vendre.
Oui, bon, ben ça passera au Moscato Show, ça.
On embrasse Abdeslam Ouadou, bien sûr, qui nous en avait sorti une balle à l'époque aussi. Johan, s'il y a un duel à surveiller encore plus que les autres ce soir, lequel t'intéresse le plus dans ce match?
Je vais pas dire. Alors attention, je vais peut-être faire hérisser les poils à certains, mais je vais pas dire Jalibert Tamac, parce que pour moi, Jalibert est vraiment un cran au-dessus de Ntamack.
Ah ouais.
Qui n'est jamais réellement revenu depuis sa blessure. Hein. Il est bon, il est scolaire, mais bon, il y a pas de. Enfin bon, voilà quoi. C'est pas. Je pense qu'il a perdu. Il a du mal à revenir. Alors que là, depuis un an et demi, Jalibert, il vole surtout. Et je pense que c'est une hérésie de dire qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs 10 au monde, si ce n'est le meilleur. Donc voilà. Non. Après, il y a. C'est compliqué à trouver vraiment. Il y aurait eu Lucu Dupont. Là, j'aurais dit Lucu Dupont sans hésiter.
Et tu nous aurais dit. Il y a pas de secret. Lucu quand même au-dessus d'Antoine Dupont. Tu nous l'aurais dit ça aussi.
Non, parce qu'Antoine Dupont, même si pareil, avec sa blessure, c'est difficile, mais il a quand même... le mec, il peut éclaircir un match sur une action, sur une vision de jeu, ça reste un génie. Donc, Lucu est excellent, mais Dupont restera jamais un génie, quoi. Donc là, effectivement, si depuis quelques temps, je trouve que Lucu est vraiment... pareil, il survole aussi, mais il est encore un petit cran en dessous de Antoine Dupont.
Est-ce que les poils... Non, là, oui, mais vas-y, fini.
Oh non, je sais pas s'il y a vraiment une opposition à regarder ce soir. C'est un début de saison.
Un petit duel pour les étincelles, juste entre Louis Bielbiard et Teddy Thomas.
Et voilà, ça va vite.
Non, faut comparer ce qui est comparable quand même. Teddy Thomas, il est bien, mais bon, faut pas déconner plus, quoi.
En fait, alors, t'as commencé par, on va pas manquer de respect à Toulouse, mais là, t'es quand même en train de faire un petit peu quand même, non?
Teddy Thomas, ok, il court vite, mais il défend pas, quoi, le gamin. Enfin, faut arrêter, toi, Teddy Thomas.
C'est une sorte de Damien Penaud, donc.
Ah, pardon?
C'est une sorte de Damien Penaud, alors, un peu, Teddy Thomas.
Ouais, à la limite, si on va jouer sur la minou, on va dire Damien Penaud et Teddy Thomas. Mais quoi qu'encore, depuis que Penaud a été remis au centre, il s'est remis un peu au niveau défensivement. Et pareil, il a un peu haussé son niveau de jeu, ce qui va peut-être lui permettre de retrouver l'équipe de France. Mais vu ce qu'il y a devant lui, ça va être compliqué.
Yoann, il y a quelque chose qui m'interpelle dans tes propos, c'est que j'ai du mal à comprendre comment Toulouse, avec tous ces joueurs très moyennasses que tu nous décris, soit 4 fois champion de France de suite.
Non, parce que Toulouse, par contre, ils ont une efficacité collective qui est monstrueuse. Ils ont un jeu bien léché depuis des années et des années.
Le management de Hugo Mola.
Oui, Hugo Mola.
Hugo Mola, c'est au-dessus d'Yannick Bru quand même là. Ça, tu peux le dire, non?
De quoi?
Hugo Mola, c'est au-dessus de Yannick Bru.
Hugo Mola, même
il a.
Il est. Gumbola est un très grand entraîneur, ça c'est clair. Après, il arrive à sortir des jeux, même avec des jeunes qui viennent du centre de formation et qu'on sont tout de suite dans le jeu toulousain. Enfin, non, ça, il n'y a rien à dire. Hugo Mola est un grand entraîneur et voilà, de toute façon, ça se voit. Moi, faut la, autant, c'est clair, hein, je ne vais pas le nier, je ne suis pas un grand fan de Toulouse, mais par contre, rubistiquement parlant, il faut être complètement maso pour dire que Toulouse n'est pas une référence dans le rugby mondial. Hein. Ça, faut être honnête avec
merci.
Ça.
Merci pour ton honnêteté et bien entendu, à 20h, tu vas regarder les filles du basket, hein, Yoann.
Non, même pas en rêve.
Pardon
même pas en rêve.
Comment ça? C'est quel respect, ça?
C'est un sport, ça, le basket?
Ah, d'accord, Johan. On en est là, bravo. Bravo,
respecte le sport.
C'était bien jusque-là, tu vas te cramer.
Chacun allume ses mèches, Stephen.
J'avais des canons de ouf à te proposer, des places en loge pour le Stade de France, pour aller voir le 15 de France. J'allais tout envoyer, Johan. T'as tout perdu.
Non, bien sûr, j'ai la chance d'avoir plusieurs abonnements et je pense que je vais surveiller, là, je vais mettre le match du rugby sur le grand écran et après je vais surveiller un peu l'équipe de France. Non.
Johan, tu mets RMC et t'auras tout en même temps, t'inquiète pas.
Il n'y a pas besoin d'abonnement, ça sera sur RMC en intégralité, et puis c'est même en clair à la télé, les filles.
Non, je vais les surveiller. Je suis aussi énormément le basket, j'ai même vu le dernier match. J'espère qu'elles vont aller au bout, mais bon.
Johan, tu t'es rattrapé, c'est bien, je suis content pour toi. Je voulais te dire qu'en fait, c'était un mytho, les cadeaux que j'avais pour toi.
Oui, je m'en doutais. T'as une réputation à tenir, Stephen.
Merci, Johan. Merci beaucoup, Johan. Tu nous as régalé. Bon match ce soir. Profite bien.
Merci bien, de même.
Ciao.
Merci, Johan, d'être passé au 32-16. Faites comme Johan et rejoignez le brunch, bien sûr. Merci beaucoup, Wilfried Templier.
Tu peux profiter de ton barbecue toute la journée. On prépare pas les fiches, hein. Ça sert à rien. Moi.
C'est marrant. Hein.
Seigneur la viande, s'il te plaît, Wilfried. Hein. Allez, ça marche. Ce soir, Wilfried, bien sûr.
Merci beaucoup.
Au commentaire de Toulouse. UBB 21h05 à suivre sur RMC. Tiens, petit message sur le WhatsApp de l'émission, Stephen. C'est Clément qui nous dit, moi je suis pour Bordeaux, mais je t'avoue que ce soir, je vais me faire un peu dessus parce que je suis pas non plus des plus confiants.
Ah, écoute, bon, c'est pas grave. Il reste des matchs après.
Ouais, il reste des matchs après. Petite réclamation aussi d'Olive qui revient sur le basket, qui nous dit, Stephen, ras-le-bol de l'expression Team USA. Genre, nous, on n'est pas une team en France. Ça donne ce sentiment de supériorité parce que les Américains.
C'est le nom qu'on donne à l'équipe américaine, en fait. Team USA en athlétisme aussi, aux Jeux Olympiques, c'est Team USA. Donc, qu'est-ce qu'il raconte?
Je vous écoutais plus.
C'est ce qu'il faisait. Il lisait la préface de Bill Belichick.
En secret, 13h43, le brunch revient dans un instant. On va parler d'athlétisme avec une compétition assez unique en son genre, mais qui va peut-être donner des idées à d'autres sports. C'est le cri du cœur de Maxime Poti.
J'espère que tu vas pas m'interrompre.
On va parler du World Athletic Ultimate. Se déroule ce week-end. L'athlète a-t-il tout compris avec cette compétition? Venez au 32-16, à tout de suite.
RMC, 13h-15h. Stephen Brunch.
Alex Biggerstaff, Stephen Brun.
13h45 dans Stephen Brunch. C'est Maxime Poti, Alex Biggerstaff et c'est l'heure de faire travailler les consultants. C'est la décision qu'on a prise cette année. J'ai décidé d'en faire un peu moins et de faire briller les consultants qui sont autour de la table, Alex.
C'est le coup de cœur de Maxime Poti. Mais juste avant, j'aimerais savoir, Steve, à l'école en sport, l'athlétisme, ça te branchait ou...
Pas trop.
C'est la réponse à laquelle je m'attendais.
Pas trop. Il y avait des crosses souvent, mais je carottais, je coupais à travers les bois, donc j'arrivais toujours deuxième ou troisième. Et personne ne comprenait pourquoi. Mais sinon, sans hauteur, j'étais pas terrible. Les lancers, j'étais correct. Sans longueur, pas terrible. Mais j'ai pas pris cette option-là au bac. Hein. J'ai pris option basket. Je suis tombé sur un prof, encore une fois, qui a voulu me faire une grande leçon.
Oh non.
J'étais au centre de formation de Chevet Basket.
Oh non.
J'avais 10 ou 15 meilleurs joueurs de ma génération.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Le mec m'a mis 18. J'ai dit, pourquoi j'ai 18? Ah, je peux pas te mettre 20 parce qu'il y a eu quelques imperfections.
Mais non!
Comment ça, quelques imperfections?
Bah, j'ai 20 en badminton, tu vois.
J'ai mis 50 points sur le match, j'ai dérouillé tout le monde, il m'a lâché. Ouais, t'aurais peut-être à un moment donné pu faire une ou deux passes supplémentaires.
Allez, on a vécu la même chose. Allez,
mais la passe, tu l'as fait aujourd'hui, merci Steve. Okay. On a vécu la même chose.
Merci, garde ton vieux bout pourri avec ton vieux jogging et tes chaussures en bro et reste prof de sport. Voilà.
J'ai eu la même chose.
Et c'est pour ça que j'ai loupé le bac.
Option anglais, étant né aux États-Unis. Eh ben, mais il m'a mis 18. Non, mais vous êtes né aux États-Unis, je peux pas vous.
Ouais, mais t'as pas bien prononcé.
Non,
Salt.
Come on! come on. J'ai très très bien parié, m'a mis 18. Mais bon, c'est du passé, c'est du passé.
C'est
allez,
pas ça, c'est la jalousie.
Mais oui, ils sont jaloux, ils sont jaloux. Venez, on va en faire un débat. Venez.
Je vous raconterai ma moyenne l'oral en espagnol, c'était exceptionnel aussi. Mais passons.
À l'époque.
T'as eu ton bac, toi?
Hein?
T'as eu ton bac, toi? Bien sûr, j'ai mon bac. Mais en espagnol, j'avais rien que. J'ai été. La prof a été très gentille avec moi. Passons, bref.
Ça sera une autre fois pour cette histoire-là, parce qu'on va faire ton coup de cœur, Maxime Potti. On va parler du World Athletic Ultimate. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, ça se passe ce week-end. C'est la première édition, c'est la nouvelle compétition imaginée par World Athletics, donc la Fédération Internationale d'Athlétisme. 3 soirs, 28 épreuves et surtout, ce n'est pas anecdotique, 10 millions de dollars en termes de prize money. La première édition de cette nouvelle compétition mondiale donc, a débuté vendredi soir à Budapest. Il y a 381 athlètes, 65 fédérations qui s'affrontent au cours de sessions de moins de 3 heures. C'est un événement qui est amené à revenir, a priori, tous les 2 ans. Les athlètes qui portent leur maillot national, bien sûr, mais ce championnat ne repose ni sur des minima, ni sur une sélection des fédérations. Sont invités donc des champions olympiques de 2024, des champions du monde 2025, les vainqueurs de la finale de la Ligue de Diamants 2026, puis les mieux classés au ranking mondial. Il y a eu quelques invitations exceptionnelles. En plus, le nombre d'athlètes d'un même pays n'est pas limité. Avec 13 engagés, la France sera donc la 4e nation représentée. Je vous parlais du prize money, 10 millions de dollars. Chaque vainqueur empochera 150 000 dollars. Est-ce que l'athlète a tout compris avec ce genre de compétition et ce genre de format? C'est le coup de cœur de Maxime Petit.
Ben oui, moi je trouve qu'ils ont tout compris. D'abord, je parle en tant que non fan absolu. Je suis pas un grand, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de l'athlétisme. Tu vois, je vais tomber dessus un petit peu pendant les championnats du monde, championnats d'Europe. Mais et ça c'est très personnel. Les voir des performances physiques, c'est pas le truc qui me stimule le plus. Moi j'aime trop les confrontations, le jeu. Voilà, j'ai beaucoup de respect et j'ai déjà vécu des grands moments en athlète. Mais je suis pas du tout le public au départ. Et je me suis retrouvé à me faire attraper par justement des publications Instagram du gala qui avait lieu avant avec tous les athlètes.
On n'a pas les mêmes algorithmes, pas eu moi, sur Instagram.
Moi, je regarde du sport, vois-tu. Mais du coup, donc je me suis retrouvé à apprendre que cet événement existait. Je l'ai regardé. Déjà, j'ai trouvé qu'il était très bien produit et très bien fait. Et pourquoi je trouve que ils ont tout compris? C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, la manière de consommer le sport a changé, mais surtout la manière d'être appelé par le produit. C'est-à-dire qu'avant, tu avais les médias qui un petit peu distillaient les points et disaient on va vous proposer ça à la télé, de toute façon vous aurez rien d'autre grosso modo, donc on regardait ce qu'on nous proposait, alors qu'aujourd'hui c'est plus vraiment les médias qui dirigent l'auditeur, le téléspectateur, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un fan de football, il va avoir que du foot sur son algorithme, un fan de rugby, il va avoir que du rugby, et donc en fait les sports un peu moins montrer médiatiquement, les sports pas majeurs qui sont un peu du deuxième ou du troisième chapeau, en fait ils ont de plus en plus de mal à exister, et je pense que c'est ce qui se passe avec l'athlétisme. Je pense que l'athlétisme a besoin de se renouveler comme énormément de sports qui sont pas en tête d'affiche de ce qui passe sur les algorithmes et de ce qui du coup est montré à la télévision. Et donc du coup, je trouve que la façon de communiquer et de vendre le produit avec un slogan qui est très simple, c'est les meilleurs contre les meilleurs. Donc du coup, ça te donne envie de regarder. La production qui est exceptionnelle, je l'ai regardée hier. Du coup, tu te dis, il y a un bel événement, j'ai envie de le regarder. Et aussi une espèce de starification des athlètes, parce qu'aujourd'hui ton produit d'appel c'est les athlètes, notamment par les réseaux sociaux, parce qu'avant encore une fois un athlète s'il voulait faire parler de lui, fallait qu'il aille dans les médias, fallait qu'il se montre sportivement. Aujourd'hui c'est totalement le compte Instagram de l'athlète qui crée sa communauté autour de lui, et ça la Fédération Internationale d'Athlétisme elle l'a compris, et du coup elle crée cet événement avec notamment un gala avant qui fait que si tu es fan d'un athlète, tu découvres cet événement avec une espèce de starification autour des athlètes. Donc c'est cet ensemble de choses qui fait que je trouve que ils sont un peu précurseurs. Je sais qu'il y a d'autres sports un peu mineurs qui tentent des petits moves comme ça, et je pense qu'on va en avoir de plus en plus des grands événements créés pour mettre en avant ces sports-là, qui notamment en plus ne peuvent pas tenir sur la durée face à des sports comme le football où t'en as toutes les semaines.
Donc ça veut dire que pour l'escrime, toi tu vas faire du contenu Insta pour ton tableau de 32 ou pas?
Alors moi personnellement non, mais par exemple en escrime je sais qu'ils tentent. Non mais ils tentent des choses comme ça, c'est un peu plus difficile, mais en tout cas c'est vraiment ce qu'ils essayent de faire, de créer des espèces de galas. Alors le problème c'est que c'est pas assez vendeur, il n'y a pas les price money, il n'y a pas l'accessibilité et la production que tu vas avoir, mais en tout cas cette démarche-là, les autres sports essayent, et je pense que l'athlétisme peut inspirer là-dessus.
Écoute, je te rejoins sur beaucoup de choses. Moi, il y a le truc qui me gêne, c'est que pour que justement aider les petits sports à faire ce genre de choses-là, il faut de l'oseille. World Athletics met énormément d'oseille parce que c'est eux le partenaire principal qui organise ça, et ça veut dire qu'il faut une fédé fortunée, ce qui est le cas de World Athletics. Et ce qui me gêne, c'est pourquoi justement World Athletics n'envoie pas cette oseille-là sur les championnats du monde, qui est quand même la compétition référence de la l'athlétisme. Pourquoi ?
T'as peur qu'ils effacent du coup les autres compétitions.
Et je me dis, est-ce que finalement, si cette compétition-là fonctionne sur le format de 3 jours, tu vois, en soirée, ça fonctionne très bien, est-ce que à terme, ça ne va pas mettre les championnats du monde d'athlétisme, une compétition pas mineure, mais reléguée au second plan par rapport à ce genre de choses-là ? C'est ça qui, c'est ça qui m'inquiète. Parce que dans d'autres sports, on a vu, on connaît mon amour pour Federer, qui a tenté la Lever Cup. Là aussi, il y a beaucoup d'argent sur une compétition de tennis qui est censée réunir les meilleurs tennismans avec un peu sur le même modèle que la Lever Cup. Mais aujourd'hui, il y a combien, 6, 7, 8 années d'existence de Lever Cup, c'est ça, la Lever Cup.
La Lever Cup.
Qu'est-ce qu'on retient? On retient quoi? On retient juste le départ de Federer et les larmes de Rafael Nadal. Est-ce que tu retiens des moments tennistiques de cette compétition-là?
Je pense que le tennis n'avait pas besoin de ça. Parce que le tennis, justement, c'est un sport que tu vas suivre toute l'année. L'athlé, il n'y a pas ça. Il y a la Diamond League. Mais en fait, la Diamond League, elle devient anecdotique. Et en fait, l'athlé, mais comme la natation, c'est un sport qui, en gros, tu as ton rendez-vous annuel, et tous les 4 ans avec les Jeux, mais tu as ton rendez-vous annuel avec les championnats du monde ou les championnats d'Europe. Et du coup, bah en fait, là, ils font ça pour redynamiser aussi, bah, justement, ne pas perdre ton audience pendant un an. Et aussi, ils l'ont annoncé, et ce que tu as dit par rapport aux conséquences que ça peut avoir, c'est que c'est un laboratoire pour eux, pour tester des choses, pour améliorer justement le produit des championnats du monde notamment, qui aujourd'hui, je pense que c'est en perdition. En tout cas, moi j'ai l'impression que les gens aujourd'hui s'intéressent beaucoup moins aux championnats du monde.
Est-ce que l'athlétisme n'a pas une problématique aussi de stars? Est-ce qu'ils ont perdu leur tête d'affiche? Si Usain Bolt était aujourd'hui dans l'athlétisme, est-ce qu'il y aurait besoin de créer ce genre de compétition-là? Alors Duplantis c'est une star, mais ça reste la perche. Et qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une icône et d'une superstar sur les épreuves de sprint, qu'ils n'ont plus. C'est pour ça aussi qu'il y a une perdition de l'athlétisme, parce qu'il y a plus, il y a Usain Bolt est parti, il a laissé un vide énorme et personne n'a pu prendre le relais en termes de médiatisation et de starification.
Ils sont justement en train d'essayer, et c'est là où je trouve qu'ils ont tout compris.
Je pense que ça peut permettre à des athlètes.
En fait, c'est ça, c'est que déjà, tu présentes tes athlètes. Vraiment, j'ai regardé hier.
Oui, j'ai regardé hier. Le mec a gagné, il est sur une espèce d'estrade, il a sur le truc.
Voilà, et puis au moment où le truc part, en plus, il y a un côté un peu sans peine, tu sais, ils mettent le coureur, ils disent résultat attendu 6e. Oui. Le mec, il a 5 de départ, résultat attendu 6e. Ah oui, quand même, ça envoie quoi. Et la qualité de l'image est incroyable, la production est incroyable. Donc déjà, tu présentes tes athlètes sous leur meilleur jour, tu leur laisses en plus une espèce de petite liberté d'expression, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément, et aussi bah, tu les mets sur un tapis rouge la veille et peut-être après, donc en fait bah, tu starifies tes athlètes.
Alors justement, dans les petits règlements qui diffèrent par rapport à ce qu'on connaît habituellement, par exemple sur 200 mètres, les mieux classés ont pu choisir leur demi-finale et leur couloir lors d'une espèce de draft en ordre de sélection en fait des principaux participants. On a bien entendu qu'avec le prize money de 10 millions de dollars, ça reste aussi un business, mais est-ce que finalement c'est pas la concession à faire pour redonner de l'intérêt à une discipline qui, il faut bien le dire, est en détresse?
Bah t'es obligé de toute façon, Steve l'a dit, sans moyens financiers, tu peux plus rien produire, tu peux plus rien construire, ou en tout cas t'es condamné.
Mais du coup, tu dois accepter d'être une sorte de vitrine un peu transformée, un petit peu maquillée.
Après, en athlétisme, il y a des disciplines, c'est les parents pauvres, hein. Tout ce qui est lancé et tout ça, ces gens-là, quand ils viennent, alors il y a des lancers qui sont sacrifiés, je crois, il y a que,
Absents, il n'y a pas le marathon, il n'y a pas la marche, il n'y a pas les épreuves combinées, 10 000 mètres, steeple, poids et disque dans les lancers.
Poids et disque, il n'y a que le javelot.
C'est ça.
Voilà, les lancers, ils ne gagnent pas d'oseille en fait. Et que pour eux, avoir une compétition comme ça, et même si tu termines pas numéro 1, parce que je crois que si tu es dernier de la compétition, tu as quand même un petit. Le mec qui gagne, le javelot, prendre 150 000 quand tu es athlète, lanceur de javelot, ça te change la vie en fait. Les sprinteurs, eux, gagnent de l'oseille, les grands sprinteurs gagnent de l'oseille parce que t'as le côté marketing après les marques à côté. Mais il y a des disciplines en athlétisme où il y a des gens qui bossent à côté, en fait, pour gagner leur vie. Et ça permet à des gens qui gagnent. Ça a toujours été la grande hérésie des Jeux Olympiques, en fait. Hein. Il y a des athlètes que tu découvres, des disciplines que tu découvres, où les gens ils travaillent à Intersport l'année, où ils n'ont pas les moyens de se payer des trucs. Sauf que les JO te permettent pas de. Là, ça peut permettre à des gens de se structurer, de mettre un petit coup de lumière sur les disciplines qui sont.
C'est plus
qu'un
prix olympique. Hein. Tu fais une médaille d'or olympique. Oui. Elle était à 80 000 pour Paris, mais en moyenne, elle est autour de 60. Donc c'est le double. C'est plus du double.
C'est un peu la carotte, justement. Ouais. Quels autres sports peuvent copier ce registre-là?
Mais ça va aussi parce que en termes de ranking, y a aussi des athlètes dans les disciplines qui vont se forcer toute la saison à participer à des compétitions et avoir des grands rankings dans le but de quoi ? D'être qualifié pour cette compétition-là, pour faire de l'oseille.
Bah ouais. Non mais voilà, moi je trouve que ça redynamise un storytelling et je trouve que, et quand tu disais là, tu t'avais posé la question sur quels autres sports
peuvent se calquer sur ça.
La première comparaison, quand on pense à l'athlète, on pense à la natation. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué en natation parce que t'as moins de diversité de vues à l'écran, c'est-à-dire que bah tu, enfin c'est tout, les distances changent.
Ouais, ou alors faut mettre des requins, des piranhas, des trucs comme ça.
Ce qui est fou, c'est que tu cites des disciplines qui sont parmi les plus regardées aux Jeux Olympiques.
Mais en dehors du temps, il y a une perdition justement avec ce que j'expliquais encore une fois, le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui, bah ton algorithme, si t'es, en fait, vu que t'as pas de natation ou d'athlétisme toute l'année. Ben, sur ce terrain-là, tu vas perdre parce que du coup, tu vas plus être dans l'algorithme des mecs. Donc,
mais tu sais ce qui va se passer un jour ? C'est que là, il y a pas longtemps, j'ai vu un film qui était un remake à l'époque, un film de Schwarzenegger, Running Man. Je vous dis qu'un jour ou l'autre, Running Man, tu connais, tu vois, c'est
oui,
quoi ?
Mais j'ai vu le film qui est sorti avec Glenn Powell.
Exactement. Ouais. C'est qu'un jour ou l'autre, on va se retrouver avec Running Man à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui va le voir échapper à sa survie en faisant du sport. Il y a des mecs qui vont être.
Le prémisse de ça, c'est on te fout sur une île et il faut que tu survives. Tu vois, c'est un peu cet esprit-là.
Un petit peu, c'est moins
dangereux. Mais tu vois, il y a des sports. Non, mais il y a des sports qui ont des moyens. Par exemple, typiquement, le sport spectacle, le sport business, le MMA a récupéré un peu de ça. Mais tu vois, des sports comme le judo qui ont quand même pas mal de moyens parce qu'il y a pas mal de licenciés où justement tu peux regretter, par exemple, ou même en boxe par exemple, tu peux regretter que les meilleurs ne s'affrontent pas tout le temps. Moi je pense que changer les formats ou créer des grands événements sur du judo ou de la boxe, ça peut créer des beaux événements. Moi j'ai beaucoup de frustration quand je suis les copains, les copines au judo, je leur dis tout le temps, mais les meilleurs vous affrontez, après, il y a un truc où vous vous affrontez pas quoi.
Après la boxe part sur des dérives quand même, de faire des matchs d'exhibition entre un mec de MMA et un grand boxeur, ou envoyer des mecs de 70 ans, des anciennes icônes pour
ça, c'est autre chose.
Là on tourne vraiment sur l'oseille.
Ça c'est autre chose.
Attention, parce qu'en natation, ils ont essayé l'ISL et ça n'a pas marché.
Mais je te dis, c'est pas la même visu que l'athlète, c'est différent.
C'est pas forcément garanti en termes de résultats. En tout cas, ça se termine aujourd'hui, le World Athletic Ultimate, première édition.
La NFL face Dan Marino contre Peyton.
La NFL, ils ont besoin de rien. C'est la ligue la plus rentable et la meilleure ligue du monde. Aux États-Unis, rien ne dépasse le football. Même pas le basket.
Ils jouent qui, les Patriots, ce week-end?
Ils ont joué, ils ont perdu sur les Seahawks.
Bien joué, question piège. Ok, j'arriverai pas à l'avoir. 13h58 sur RMC. La deuxième heure du Stephen Brunch arrive dans un instant. Il y aura les infos avant, mais on parlera notamment de la course au Ballon d'Or. Stephen nous dit, le foot est en voie de NBAisation. Et oui, on fait trop de politique autour de ce trophée. On parlera de la finale de l'US Open qui aura lieu ce soir du côté de New York. Ben Shelton en finale face à Sacha Zverev. Shelton est-il capable de rejoindre les meilleurs du monde du tennis, et puis enfin la finale de la Coupe du Monde de basket à 20h sur RMC avec Stephen Brun, bien sûr. Ce soir, doit-on vraiment y croire pour les Bleus? Rachid Mezian, coach WNBA et ancien assistant de l'équipe de France, sera l'invité du Stephen Brunch. À tout de suite.
RMC 13h-15h, Stephen Brunch,
Alex Biggerstaff, Stephen Brun.
14h06 sur RMC, le début de la deuxième heure du Stephen Brunch. Vous pouvez bien évidemment, réécouter la première sur toutes les plateformes de téléchargement si vous avez loupé notre débat sur l'UBB Toulouse ou sur le coup de cœur de Maxime Potti sur cette nouvelle compétition d'athlétisme. Tout ça, c'est dispo. Maxime Potti est toujours là. Ça va, Max, avec ses petites amandes,
Amandes, la pause, c'est les amandes, hein, c'est parti. Hein.
Exactement, Alex avec son petit... stylo. T'arrives à faire ton stylo sur le doigt là à l'école là ?
Non, mais je crois bien que Pierre Dorian est champion du monde de ça.
Pierre Dorian très fort, il fait aller et retour.
Mais des fois ça m'hypnotise. Hein. Quand je regarde le SMS ou même en conférence de rédac, il fait ça sans arrêt.
Ouais. Ça c'est les cancres. Souvent c'est les cancres.
Qu'est-ce que tu fais avec ton stylo ? Tu fais du javelot là ou quoi, Maxime ?
Et qu'est-ce que je vais dire ? Personne n'est parti voir Céline Dion hier en concert pour la première ?
Non, en fait, j'aime pas. J'ai pas envie de me battre.
Voler la vedette aux gens.
Me battre. Il y a des gens.
J'étais place.
Il y avait Enzo Lefort qui était. Oui, mais lui, il était invité, lui.
Ah, mystère,
RVMH. Et il m'a pas invité. Hein.
Ah, je peux te dire.
Alex, pas invité. Céline Dion, ça t'intéresse pas?
Non.
Non, je suis allé voir Jay-Z.
Je respecte entièrement. J'aime bien Céline Dion et tout, mais j'ai pas envie de me mêler à tout ça.
Très bien.
Ouais. Non, Jay-Z c'est bien par contre.
Jay-Z, écoute, moi j'ai apprécié.
Mais t'as fait la queue en ligne pour pouvoir avoir tes places, ou ça a été facile quand même? Parce que moi c'est ça le problème à chaque fois.
Ah non, pour Jay-Z, c'est mon meilleur pote qui a acheté des places et qui m'a invité.
C'est lui qui s'est battu, ouais. Voilà.
respect, il a des bons potes.
J'ai la flemme de me battre contre Jay-Z. Il y avait moins de bagarre quand même.
Avec Jay-Z ?
Oui, parce qu'il restait des places encore en vente.
Allez, la deuxième heure du brunch. Vous avez l'habitude, bien sûr, le 32-16, mais aussi sur WhatsApp, le 06-12-424-424. On va reparler football avec Stephen et Maxime. Et ça va d'ailleurs être le coup de gueule de Stephen ce dimanche. C'est sur la course au Ballon d'Or. Stephen nous dit le foot est en voie de NBA-sation. Venez au 32-16, réagissez avec nous au WhatsApp de l'émission. On vous attend. C'est parti pour ce coup de gueule de Stephen. Stephen, la course au Ballon d'Or te saoule, je le sens.
Oui, ça me saoule. En fait, je voulais faire le parallèle avec la NBA parce qu'on sait que les footeux, il y a ce mythe de joueurs de basket professionnel, tout le nombre de footeux qui, dès qu'ils vont voir un match NBA, vont essayer d'aller voir dans les vestiaires. Ils badent en fait les footeux alors que c'est peut-être eux qui sont tout en haut de la pyramide. Il y a toujours ce mythe des joueurs NBA que les footeux badent et on se rend compte que dans le foot, on est en train de prendre un virage qui est vraiment centré sur ce que fait les NBA, déjà dans la façon d'analyser les matchs. On sait que la NBA et le basket particulièrement, l'omniprésence des stats dans le basket, alors au-delà des points marqués, des rebonds et tout ça, aujourd'hui les datas, la NBA était capable de sortir le nombre de points inscrits en carrière par LeBron James avec tel modèle de chaussures. On est sur des stats à l'excès et tu t'aperçois que c'est arrivé un petit peu dans le foot aussi, cette analyse de performance avec les stats, avec les datas ou le moindre truc est disséqué. C'est déjà ce premier rapprochement là et ensuite en termes de communication sur les récompenses individuelles, la NBA a été précurseur là-dessus à l'approche du All-Star Game, du vote de All-Star Game, la campagne de mobilisation des franchises en général sur les réseaux sociaux, des joueurs, des coachs, des coéquipiers, des joueurs qui sont prétendants au All-Star, et idem quand arrive le vote du trophée de MVP, là ça défile, oui pourquoi je dois être MVP, le coach qui dit mais attends, lui doit être MVP parce que si, parce que ça, il y a des campagnes présidentielles, mais c'était rentré un petit peu dans la culture
NBA,
du basket américain.
Dans les contrats que la NBA a fait, t'as des sommes financières en jeu avec ça, la NBA joue le jeu.
Exactement, voilà. t'as des bonus dans les contrats des joueurs si t'es MVP, à la rigueur, je vais bien comprendre. Mais ce qui est en train de se passer là, ça part pas d'aujourd'hui, ça part pas de cette année-là, mais cette année est un peu à son paroxysme parce qu'il n'y a pas de grands favoris pour le Ballon d'Or, et que là, tout le monde rentre en campagne présidentielle. C'est parti, pour le moment, les interviews, la grande interview de Kylian Mbappé, la grande interview de Doug Varashkeya, la grande interview d'Ousmane Dembélé, Yamal en conférence de presse qui doit réagir aux favoris qu'a dit Ousmane Dembélé, Luis Enrique qui doit choisir. Le problème c'est qu'il a 9 mecs dans son équipe, donc c'est compliqué de choisir. On passe on essaye de convaincre le jury qui sont les journalistes à savoir pourquoi je dois être Ballon d'Or. Si déjà tu fais l'unanimité, t'as même pas besoin d'argumenter, parce que les mecs qui argumentent, c'est des mecs qui sont en balance et qui sont pas sûrs d'y être. Mais cette année, personne est sûr d'y être. Et je trouve ça un petit peu, ça me fatigue. Je suis fatigué par ça. J'arrive un petit peu à saturation. Toute cette période de Ballon d'Or, moi, m'use. J'en peux plus parce que toutes les conférences de presse sont tournées autour de ça. Il y a toujours des questions. Alors, les journalistes, eux, sont exaspérés par le côté individualiste que prend le football. Mais eux, alors ça fait partie de leur métier, accentuent ce truc-là en posant des questions sur le trophée le plus individualiste dans le football. Donc voilà, ça me gaffe un peu. J'ai hâte que le vainqueur soit décerné, peu importe qui c'est, et qu'on passe à autre chose et qu'on se concentre un petit peu plus sur le sportif.
Ouais, on a bien compris que c'était devenu un enjeu marketing colossal, oui, avec la guerre de l'image qui prime donc sur le sportif. Désormais, il y a les stratégies de communication des clubs, des agences d'influence. C'est devenu une vitrine mondiale pour les sponsors notamment. Je rappelle que la cérémonie du Ballon d'Or aura lieu le 26 octobre. Donc imaginez à quel point on en est loin encore.
C'est pas Paris cette année, je crois.
Et ce n'est pas à Paris, c'est à Londres, effectivement, mais on est encore très loin.
Je croyais que c'était dans pas longtemps, là.
Eh oui, c'est ça le truc, c'est qu'on est encore très très loin et on en parle beaucoup, évidemment. Maxime, tu rejoins Stephen sur ce coup de gueule et surtout le côté américanisé, finalement, on a envie de dire, de cette institution.
Oui, je le rejoins. Ce que dit Steve, c'est vrai qu'on a même au niveau vestimentaire, tu sais, les joueurs de foot, ils suivent les trends, mais après, c'est aussi ça, quand la plus grosse icône sportive de tous les temps, je parle d'icône juste, après le débat on peut l'ouvrir, mais c'est Michael Jordan, justement, c'est lui qui a ouvert le sportif attaché encore plus à une marque, qui crée sa propre marque, voilà. Donc en fait, il y a Michael Jordan qui rôde un petit peu autour de ça. Moi, le Ballon d'Or, là où je suis pas fan, c'est qu'en effet, je trouve que déjà de base le Ballon d'Or, alors c'est un trophée historique, mais c'est un trophée qui moi me fatigue parce que je trouve que le sport, le football est très collectif et que les statistiques ont moins d'importance justement que dans un sport comme le basket où t'as 5 mecs sur le terrain. T'as jamais d'arrière droit qui peuvent être Ballon d'Or, t'as jamais de défenseurs centraux ou très rarement particuliers.
Et là le comparatif avec la NBA n'est pas bon parce que la NBA a des trophées pour
chaque poste,
pour le MVP, pour le meilleur 5, le meilleur défenseur.
Oui, puis tu peux avoir à un moment tu vois, ok, ton équipe en NBA, le meneur de jeu c'est lui qui a le plus d'impact sur une équipe, alors qu'à l'inverse ça peut être le pivot. Donc en fait ça se tient qu'il y ait une confrontation presque des 5 joueurs face à 5 joueurs. Là sur 11 joueurs, le collectif est tellement important. Et moi ce que je regrette alors il y en a quelques-uns, mais dans toutes ces mises en avant individuelles, c'est que tu vois, je vais reparler du football américain une dernière fois dans cette émission.
Non
mais tu vois, par exemple les quarterbacks sont tout le temps les meilleurs joueurs, l'équivalent des ballons d'or on va dire, parce que c'est eux qui ont le ballon tout le temps,
c'est eux qui ont beaucoup plus de responsabilités.
Voilà. Mais à la fin, justement à la fin d'une saison, le quarterback il va tout le temps inviter chez lui à manger les joueurs justement qui sont cachés dans l'effectif mais qu'il protège, qu'on appelle les
il invite les 90 mecs de l'équipe.
Non, il invite justement ce qu'on appelle la ligne offensive, c'est-à-dire les 5 joueurs qu'il protège pour pas qu'ils se fassent saquer.
Et je peux te dire que quand tu invites les 5 mecs qu'il protège, il faut envoyer de la viande et
faire voilà,
combien de tonnes de bouffe.
Généralement, c'est les gros garçons qu'il protège pendant toute la saison et qui sont les joueurs les moins payés et qui sont les joueurs les moins mis en avant, et justement le quarterback remercie ces mecs-là. Et je trouve que dans le foot là aujourd'hui, on n'a pas de mecs qui disent oui, peut-être que je suis prétendant au Ballon d'Or, mais franchement, c'est grâce aux mecs autour de moi. Et moi ça me manque vachement.
Steve, juste quand on parle des sports de stade pour la NBA et le basket, ça commence combien de temps en gros avant qu'on décerne ce trophée de MVP de la saison en NBA? Combien de temps avant t'as vu peut-être Victor Wembanyama cette année, un peu moins Nikola Jokic parce qu'il aime pas ce genre de choses, mais se mettre un petit peu en vente, j'ai envie de dire, pour aller récupérer ce trophée?
Mais Victor lui-même l'a fait sans
trophée
vraiment
décerné en juin,
décerné en juin. Après le problème c'est que la NBA fait tous les mois une course à MVP.
Ça commence le premier mois, en fait.
La race au MVP, donc c'est un feuilleton qui est suivi mois après mois dans cette ligue-là. Mais en NBA, ce sont souvent les coéquipiers qui font la promo de leurs joueurs leaders et stars. Mais ça commence très tôt et toutes les opérations sont scrutées mois par mois, qui a fait quoi. Et en NBA, pour être MVP, c'est là où il y a un gros débat sur le Ballon d'Or aujourd'hui, c'est parce qu'il y a pas grand monde en fait à dominer cette année footballistique. Il y a des équipes qui ont gagné, mais parmi ces équipes-là, il n'y a pas des joueurs qui ont brillé. Il y en a d'autres qui ont brillé individuellement. En NBA, parfois, il y a des mecs qui ont été MVP qui n'étaient pas dans la meilleure saison parce que c'est récompense la saison régulière. Il y a des Jokic, il est MVP, je crois, une année, il est 6e de la Conférence Ouest. Donc c'est pour ça que quand il y a des mecs qui défendent leur trophée en disant moi je peux être Ballon d'Or, c'est pas parce que j'ai rien gagné, parce que je suis le meilleur. Moi je trouve ça crédible en fait, parce que dans mon sport, il y a des mecs qui ont été MVP de la saison régulière, mais qui n'ont pas dominé la saison régulière. Donc je trouverais ça cohérent qu'un mec qui n'ait pas gagné de trophée qui soit dominant sur la saison, comme Kylian Mbappé notamment, je trouve ça pas scandaleux qu'il soit Ballon d'Or.
Alors, on entend beaucoup parler ces derniers jours, notamment Kylian Mbappé, on a entendu aussi Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé qui lui a préféré se mettre en retrait par rapport à ça parce qu'il n'aime pas trop participer à ce genre de débat. Bafodé nous dit sur le WhatsApp d'RMC au 06 12 424 424, on n'entend pas Harry Kane par exemple sur ce sujet-là. C'est vrai que ça diffère aussi par rapport au personnalité des joueurs. Il y a Azot Wicked qui nous dit, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire Steve sur le Ballon d'Or, les journalistes parlent beaucoup du côté individualiste des joueurs mais font partie du problème en l'alimentant chaque jour. On revient sur le côté l'américanisation de ce trophée là aussi, c'est rien par rapport à ça, mais mine de rien dans le football, en Coupe du Monde pour la première fois, les champions du monde, les Espagnols cet été ont reçu pour la première fois de l'histoire une bague de champion inspirée des traditions de la NBA, de la NFL.
Ouais, c'est ouf.
Donc le football quand même tend sur ces trophées ou ces petits détails en gros qui font partie du sport américain.
Et puis les stars du football copient un peu ce que font les stars NBA, ces espèces de, il y en a qui créent leur agence de joueurs, le poids des agents dans le football aussi. Et aujourd'hui quand je vois Rich Paul qui est un agent NBA qui est peut-être le pion central de tout ce qui se passe en NBA, aujourd'hui les agents de foot ont énormément de responsabilités. Et j'ai toujours été très curieux de savoir pourquoi les footballeurs battent autant les joueurs NBA. Alors il y a une question d'oseille aussi, parce que c'est peut-être le seul superstar qui gagne plus d'oseille qu'eux. Mais je sais pas, il y a ce mythe en fait, le joueur NBA est mythique. Mais
je te dis, parce qu'il y a l'ombre de Michael Jordan. C'est Michael Jordan qui a lancé ça aussi.
Oui, mais aujourd'hui les jeunes joueurs, c'est plus LeBron James quand même, c'est pas Jordan.
Non, aujourd'hui tu vois, moi je pense qu'il y a toujours l'ombre de Michael. T'achètes toujours ta paire de Jordan, quoi. Il y a toujours ce truc, l'icône que tout le monde veut être, c'est entre guillemets, c'est Michael Jordan. Je pense qu'il y a toujours ça, quoi.
On va accueillir Adam au 32-16 qui veut participer à ce débat. Salut Adam.
Salut Adam.
Salut Adam. Bonjour à tous.
Comment vas-tu?
Ça va et vous?
En pleine forme, merci. Tu nous appelles d'où?
De Enghien-les-Bains.
Enghien-les-Bains, très bien Adam. Ce parallèle foot NBA, toi, tu le vois aussi?
Alors je le vois, malheureusement, je le constate, parce que cette NBAisation du football, elle est véridique. On est dans une ère où les réseaux sociaux ont énormément d'importance, où on va énormément beaucoup plus par les stats, par les chiffres, parce que les gens regardent de moins en moins les matchs de foot et les gens regardent de plus en plus les résultats, les statistiques. On va voir Mbappé 80 000 buts de saison, Harry Kane 80 000 buts de saison, on va se dire waouh, c'est magnifique. Mais si on se penche réellement sur le foot, parce que on est dans un sport qui est très très différent du basket, où le meilleur joueur du monde au football peut avoir zéro stats. Voilà, Pedri, il y a une période l'année précédente, Pedri c'est le meilleur joueur du monde à une période de la saison, parce que ce qu'il fait sur le terrain, comment il débloque le jeu, comment il change la face de d'un match, ça fait de lui le meilleur joueur du monde. Lamine Yamal aujourd'hui est le meilleur joueur du monde intrinsèquement parlant en termes de football pur. Mais pourtant, c'est pas le joueur qui va avoir le plus de stats. Et malheureusement, des joueurs comme Mbappé, comme vous avez dit, qui copient et qui prennent énormément exemple sur les joueurs de NBA, sur les basketteurs, parce que ils ont un flow, il y a Michael Jordan, comme vous avez dit, son ombre qui est toujours présente, les bagues, les Américains sont énormément forts pour créer de la hype, pour créer tout ce qui est de l'entertainment. Ils sont très très forts et on veut devenir comme eux, parce que ça fait énormément d'argent. Les footballeurs veulent devenir comme eux parce que ils ont du flow, ils sont stylés, ils mettent des dunks, ils s'habillent bien, etc. Mais malheureusement, s'ils veulent devenir comme eux dans leur vie privée, très bien. Mais le football ne doit en aucun cas devenir un parallèle du basket où les statistiques doivent devenir maîtresses. On est dans un magnifique sport où l'histoire de, par exemple, on va prendre comme exemple la carrière de Kylian Mbappé, qui est une fable de La Fontaine. On pourra la dire plus tard, parce qu'on parle d'un joueur qui, on peut dire que c'est peut-être le top 3 meilleur joueur du monde, qui quitte un club, qui gagne deux Ligues des Champions juste à son départ, et qui rejoint un club qui en a gagné deux sur les trois années précédentes avant Kylian. C'est quand même fabuleux. Et on parle d'une équipe du Paris Saint-Germain, qui, la première saison où elle gagne la Ligue des Champions, n'a aucun joueur très 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 star, mais qui a créé ses stars grâce à son trophée, grâce à son collectif, grâce à ce qu'a fait la plus grande star de ce club actuellement, qui est Luis Enrique, qui est le coach. Et malheureusement, cette NBAisation du football est une mauvaise chose. Je donne mon avis, le ballon d'or cette saison doit être Ousmane Dembélé. C'est le joueur qui gagne la Ligue des Champions, qui gagne des trophées et qui est le plus impactant dans les grands rendez-vous.
Tu sais, la seule différence que je vois, enfin, il doit y en avoir d'autres, mais celle qui me saute aux yeux, c'est que en NBA, c'est une ligue de joueurs. Les joueurs, les superstars ont le pouvoir, ont la capacité à prendre des décisions au sein d'une franchise. Alors que dans le football européen, dans les très grands clubs, j'ai plus l'impression quand même que, je vais pas dire que c'est une ligue de coachs, mais les coachs sont les superstars. Tu me parles de Luis Enrique, Pep Guardiola était la superstar de Manchester City,
Mourinho, Arteta, Real,
José Mourinho. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là la différence aussi. En NBA, c'est les stars décident.
Jürgen Klopp à Liverpool a créé ce projet. Sans Jürgen Klopp, Liverpool aujourd'hui c'est peut-être encore 10e de première ligue avec des Adam Lallana, des Nathaniel Klein, etc.
Rappelle pas des mauvais souvenirs, s'il te plaît.
Mais parce que le foot est encore plus collectif que c'est un sport encore plus collectif que le basket.
Merci beaucoup Adam d'être passé au 32-16 pour témoigner sur cette course au Ballon d'Or. Très bonne journée, très sportive.
Merci,
bien sûr,
Adam.
Vous le savez sur RMC. Salut Adam. Je rappelle quand même que le Ballon d'Or n'a pas changé en termes de critères hein, pour l'attribuer, bien sûr, par ordre d'importance. Ça sera les performances individuelles, caractère décisif, bien sûr, et aussi impressionnant. Performance ensuite collective et palmarès, et enfin classe et fair play.
Ce sera ça surtout sera donc la sensibilité des journalistes qui votent.
Les 100 journalistes, bien sûr, qui vont voter.
Ça sera influencé par ça, franchement.
Le lundi 26 octobre à Londres, donc pour la cérémonie du Ballon d'Or. 14h22 sur AMC. Dans un instant, on va parler tennis et on va aller à New York rejoindre Eric Salio, puisque ce soir à 20h, Ben Shelton va défier Sacha Zverev. Ben Shelton est-il capable de rejoindre les meilleurs du monde du tennis? On répond à cette question dans un instant. À tout de suite.
RMC, 13h-15h. Stephen Brunch.
Alex Biggerstaff, Stephen Brun.
14h25, toujours le Stephen Brunch en direct sur RMC avec Maxime Potti, Alex Biggerstaff. Et si on allait à Big Apple?
Big Apple?
Big Apple.
New York, pour ceux qui ne savent pas, bien entendu, on précise. La suite du Stephen Brunch avec Stephen, avec Maxime Potti. Et oui, direction New York pour rejoindre Eric Salio. Salut Eric, good morning.
Good morning, guys.
Ah, il est en pleine forme, aujourd'hui est final.
Ça va, Eric?
Là, ça va mieux que toi, j'ai vu que tu avais perdu au panel.
Ah, écoute, ça arrive. Ça arrive. T'es, toi aussi, tu as déjà perdu des matchs en étant au-dessus, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà.
Oui, c'est vrai. Voilà. Tout à fait.
La grande question pour ce soir avec la finale de l'US Open qui va opposer Sacha Zverev à Ben Shelton, l'Américain qui est poussé par toute une nation. Ben Shelton est-il capable de rejoindre les meilleurs? C'est la question qu'on pose dans le brunch. On vous attend au 32-16 et sur le WhatsApp 06-12-424-424. S'il remporte l'US Open ce soir, Ben Shelton, bah, il succéderait à Andy Roddick en tant que dernier Américain vainqueur de l'US Open. Ça remonte,
c'était 2003,
en 2003 exactement. Wow. Maxime Potti, toute une nation attend donc ce sacre, mais est-ce que Ben Shelton est capable de rejoindre les meilleurs du tennis, Stephen?
Ouais, moi j'y crois de par sa progression tennistique déjà. Moi je trouve qu'il y a énormément de progrès chez ce garçon là alors son service, il est bien sûr monumental, mais ça serait, je trouve, un petit peu réducteur de dire qu'il a uniquement un bon service. Moi je l'ai vu faire des choses sur cette quinzaine l'US Open que j'avais pas vu auparavant, son agressivité pour monter au filet, il n'hésite plus à même à enchaîner des services volés sur deuxième balle, ses progrès au revers aussi, de temps en temps il envoie un petit slice de revers qu'il n'y avait pas auparavant, il est capable de tenir l'échange sur un coup qui était son relatif point faible avant, et puis pour se mêler, tutoyer les Alcaraz, les Sinner, il faut aussi se mettre le public dans la poche, et je pense qu'il a tout en magasin pour être, comme on dit en NBA, un fan favorite, c'est-à-dire que les gens vont vite devenir fans de lui parce qu'il a ce charisme de fou. Il est métis beau gosse, sourire Colgate, biceps saillant dans son petit débardeur. C'est un mec qui est capable de faire le show sur le court, d'aller chercher public, mais qui est aussi capable d'être un petit peu plus focus et concentré sur les trucs importants. Ça aussi, c'est son axe de progression qu'il a eu. Il a joué beaucoup de tie-break et des momentum très importants sur cette US Open, et il ne s'est pas laissé à des effusions de joie fantastiques. Et j'ai trouvé être capable de se recentrer, de se concentré, je trouve que c'est un axe de progression aussi. Tennistiquement, bien sûr qu'il va falloir à un moment donné gagner des tournois avec le retour d'Alcaraz et Sinner. Son bilan head-to-head contre les deux, je crois qu'il y a 2 victoires seulement sur 13 confrontations, mais il vient de battre Carlos Alcaraz dans un match qui est peut-être le plus beau match de cette quinzaine. Peut-être qu'Eric en trouvera d'autres, mais pour moi il m'a régalé ce match-là. Donc moi je le vois forcément être le 4e larron des trois, en plus de Alcaraz, Sinner et Zverev. Et il a une caisse physique à la résistance, puisqu'il a joué beaucoup de matchs durs, et je trouve qu'il a la caisse pour. Il est pas sur le déclin quand les matchs durent un petit peu. Je trouve qu'il arrive à rester un niveau physique, voilà, bien entouré. J'adore sa boxe, j'adore son père, qui en plus est très ouvert avec les médias. On entend tout ce qu'il dit. Je trouve qu'il y a une belle alchimie. Je le vois pas péter le boulard si jamais ça gagne ce soir. Donc moi je le vois vraiment très très haut dans la hiérarchie du tennis mondial sur les années à venir.
Et dans la durée, Maxime. Ouais, t'es d'accord avec ça?
D'accord avec tout, sauf sur dans la durée, où là j'ai plus de doutes. D'abord, comme tu l'as dit, je pense que tout le monde a été pris d'amour pour lui, entre guillemets, sur cette quinzaine. Il a fait une superbe quinzaine, des points spectaculaires. C'est aussi un Américain qui peut gagner aux États-Unis à New York. Donc forcément, il y a une ferveur.
Et ça, c'est une pression. Et qu'il assume.
C'est une énorme pression. Qu'il assume. Non, mais il est top. Franchement, il est vraiment top. Et je pense d'ailleurs qu'il a toutes ses chances pour la finale. Maintenant, moi, là où j'ai plus de doutes, c'est que, tu vois, par exemple, sur la demi sur Tiafoe, j'ai trouvé que tennistiquement parlant, jusqu'à ce que physiquement il y ait une bascule, il était plutôt dominé et qu'en fait, il a eu une qualité de déplacement, une vitesse de déplacement. Il sera toujours puissant, mais la mobilité qu'il a actuellement, je ne pense pas qu'il puisse la tenir. Il a 23 ans.
Il bosse, c'est un athlète. Hein.
Non, mais je suis d'accord. Mais là, il sollicite, il met des points où vraiment, et c'est là où il devient injouable. Et c'est là où ce soir, il peut peut-être gagner. C'est qu'en fait, moi, je l'ai vu mettre des points. J'ai dit non, mais il va pas faire ça pendant 10 ans.
Mais pourquoi Rafael Nadal a pu le faire pendant 15-20 ans?
Déjà, t'as vu dans quel état Rafael Nadal a mis son corps en pouvant le faire. Et Rafael Nadal, il avait un physique plus petit, il était puissant, mais plus léger. Là, pour moi, je l'ai vu faire des trucs physiques. J'étais impressionné. Et bravo à lui parce qu'il a dû travailler. J'ai plus de doutes sur la durée.
Eric Salio, on a eu Jimmy Connors, John McEnroe dans les années 70-80 pour les Américains. On a eu Pete Sampras, André Agassi au début des années 2000. Est-ce que Ben Shelton peut porter sur ses épaules justement cette nation américaine qui n'attend qu'une chose, c'est de vibrer ce soir?
Je pense que oui. Je pense que oui, il y a une effervescence, il y a un engouement qui est indéniable. On l'a vu vendredi soir, il y avait beaucoup de stars qui étaient dans les tribunes du H, notamment Jalen Brunson, qui a rencontré ensuite Ben Shelton dans les entrailles du stade et qui lui a dit « Je reviendrai cet après-midi ». Non, il y a un truc, parce que tu vois, il y a deux ans, c'était Fritz qui était en finale.
Oui.
C'est pas pareil. Puis on croyait pas à la victoire de Fritz face à Sinner, et on avait raison, parce qu'il avait pris une danse. Là, il y a un truc qui va se passer, et en plus, je pense que le rôle du public va être déterminant. Parce que je pense que Zverev, il va en prendre plein les oreilles. Mais plein les oreilles. Et s'il arrive à...
C'est combien? C'est 23 000, hein, c'est ça, spectateur?
C'est 23 000. Il va se faire chambrer aussi parce que il y a une stat incroyable qui est sortie par ESPN. Vous savez que Zverev, il est très agaçant quand il fait rebondir la balle un certain nombre de fois. Mmh. Avant les demi-finales, ESPN a calculé qu'il a fait rebondir la balle 12 000 fois. 12 000 fois.
Attends, depuis le début de la quinzaine.
C'est ridicule. C'est 20 rebonds par avant chaque service. Donc tu te rends compte, ça monte très vite. Khachanov s'en est plein. Et je pense que le public va rentrer dans le truc.
Ils vont compter.
Ils vont le faire chier, passez-moi l'expression. Et je pense que ça peut jouer.
Est-ce qu'il n'est pas impassible un peu à ça, Zverev?
Pour l'instant, oui. Mais là, c'est le match le plus important, c'est le dernier. Je pense qu'à un moment il va
plein
auprès de l'arbitre, tu vois, ça va faire monter le truc. Non, moi je pense que le match va jouer dans les tribunes.
On rappelle que Sacha Zverev à 29 ans visera une deuxième victoire en Grand Chelem après son sacre à Roland Garros cette année. Zverev disputera aujourd'hui d'ailleurs sa cinquième finale de Grand Chelem en carrière et la troisième rien qu'en 2026, ouais, parce qu'il a profité aussi de certaines absences de Sinner et Alcaraz, mais il est présent cette année.
On parlait d'opportunisme dans le tennis quand il y a des tableaux qui s'ouvrent et tout ça. Zverev, quand ça s'ouvre, il y va. À Roland Garros, Sinner est out, il va au bout. À Wimbledon, Sinner est là, il va pas au bout, mais il va quand même en finale parce qu'il perd contre Sinner. Là, il a pas joué encore de gros joueurs pour se hisser en finale, mais il a galéré sur le début du tournoi. C'est un mec qui, on parlait de top 3, et lui, il est numéro 3 derrière les deux autres, et il assume son statut, Zverev. Alors, il a l'expérience plus que Ben Shelton de ces grands cours-là et de ces échéances de tournoi. Maintenant, à voir comment Eric l'a dit, il supporte les 23 000 personnes contre lui, il supporte aussi parce que Ben Shelton va emmener le public avec lui. À un moment donné, entre les points, il va peut-être y avoir du bruit entre la première et la deuxième balle, à voir comment il gère tout ça, et comment il tient son service. Surtout, la clé, encore une fois, quand t'as deux énormes serveurs comme ça, c'est de pas se faire breaker, hein, Eric, ça, on va pas inventer le tennis, hein, forcément. Mais Zverev, qui a très mal débuté son tournoi et qui a très bien fini, il met trois petits sets à Khachanov en demi-finale. Est-ce que sur l'aspect, moi, je crois que Ben Shelton est quand même un athlète, plus, même un plus gros athlète que Zverev, mais est-ce que Shelton peut chuter par rapport à tous ces matchs compliqués qu'il a joués cette semaine?
Je pense pas, je pense que tu l'as dit, c'est un athlète extraordinaire, il a des jambes de feu. Moi, j'ai vraiment été bluffé par sa capacité à...
Ah, il galope, mais sa mobilité avec sa taille et sa puissance, c'est fou, quoi.
Ah oui,
il fait pas 2m15 non plus, hein. Ça va. Hein.
Et puis, il est capable de s'en sortir avec son service. Alors, à un moment, il y a eu une fake news, puisqu'on a cru qu'il avait battu le record du monde du service.
254,
ouais. Non, mais il était gouré, le Hoka, il essaie de rectifier très vite.
Ah, c'est toi qui avais servi, non?
Mais non, mais moi, j'aime beaucoup le mec. Il était un peu arrogant à ses débuts, tu te souviens?
Oui,
il s'était frité avec Djokovic. C'était...
Et Djokovic l'avait répondu quand il avait battu avec le téléphone. Il avait dit, tiens, ton téléphone, c'est moi qui raccroche.
Ouais. C'était génial. Mais je pense qu'il a appris de tout ça. Et tu as raison, tu as parlé de son père. Son père, c'est... il y a des valeurs dans cette équipe, dans sa team. Moi, j'ai beaucoup aimé l'image aussi vendredi soir où ils arrivent à sa team.
Faire le petit hug, le petit câlin.
Voilà, ils font une sorte de mêlée de rugby, genre, allez, les gars, plus qu'un. Il a fait une accolade avec Andy Roddick quand il est passé sur le plateau d'ESPN, genre, allez, fais-le pour les States, quoi. Il était très bon aussi dans son discours après Tiafo. Donc, il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Mais on sous-estime Zverev.
Oui.
Disait Cornet, ça fait beaucoup de bruit ici à l'US Open. On sous-estime Zverev. Il a une vitesse de balle. Il faut aller voir le match sur le court. Ça n'a rien à voir avec la télé. Zverev, c'est un cador. Et attention, s'il gagne ce match, il est en pole position pour être numéro 1 mondial en fin d'année. Il va prendre 700 points d'avance sur Sinner. Donc s'il contrôle l'Italien, et ça peut basculer à la défense. Après la défense, il peut être numéro 1 mondial, puisque les points du master de Sinner seront tirés. Donc lui, il joue très gros là-dessus, parce que, passez-moi l'expression, après l'Open d'Australie, et on a entendu, hein, moi le premier, je pense, on va voir les bandes, c'était un loser magnifique.
Bien sûr.
Et là, il est en train de fermer les bouches à tout le monde.
Et en plus, ici, à la défense, c'est Céline Dion qui fera l'ouverture des matchs pour le master.
Rendez-vous à 20h ce soir sur RMC pour la finale de l'US
Open
avec Eric Salio.
C'est dommage,
parce que
cette finale de l'US Open va être un peu éclipsée.
Oui, il y a un carambolage terrible.
Pas sûr que ça fasse une grosse audience à la télé américaine, ça, tout ça.
Va falloir jouer des coups d'Eric Salio. Merci Eric, et à ce soir, donc 20h pour la finale de l'US Open, Sacha Zverev face à Ben Shelton. 14h36, on va parler justement de la finale de la Coupe du Monde de basket. L'équipe de France féminine face à l'équipe américaine, c'est à 20h ce soir, grande soirée sur RMC, bien sûr, avec l'After Live, avec Monsieur Stephen Brun, bien sûr. On en parle dans un instant avec notre invité Rachid Mézian, coach WNBA et ancien assistant de l'équipe de France. À tout de suite.
RMC, 13h-15h, Stephen Brunch.
Alex Biggerstaff, Stephen Brun.
14h38 sur RMC, la fin de votre émission, le Stephen Brunch avec Max Potti et Alex Biggerstaff, et c'est le moment de parler de l'événement climax de la journée.
Le meilleur pour la fin. Exactement. Stephen, le meilleur pour la fin. Et oui, c'est cette grande affiche États-Unis France à 20h ce soir sur RMC, l'After Live émission spéciale avec Stephen Brun, avec Georges Quirino bien sûr, et puis en direct de Berlin nous serons avec Félix Gabory aussi qui est là dans le brunch. Salut Félix.
Salut Alex.
Félix,
salut
de Kat. Salut Félix.
Envoyez à RMC à Berlin. Un immense défi pour la sélection française, donc, qui va affronter les États-Unis, l'ogre américain qui n'a plus perdu en Coupe du Monde depuis 20 ans et qui ne s'est incliné qu'à deux reprises en sélection internationale. C'était à chaque fois contre l'URSS. Les États-Unis qui a affronté la France déjà par le passé, mais qui n'a été battu que deux fois par l'équipe de France. C'est la première fois, c'était en 1971. La seconde fois, c'était en match amical il y a 12 ans. Félix, c'est un rendez-vous exceptionnel ce soir pour l'équipe de France, pour les filles de Jean-Aimé Toupane. Raconte-nous un petit peu la préparation et le programme de nos Bleus avant cette grande finale.
Déjà en termes de programme du jour, c'était très léger parce que on le rappelle, il y avait que 24 heures entre la victoire en demi-finale et la finale qui est ce soir. Donc le mot d'ordre, c'était récupération. Ce matin, on a eu une petite séance de muscu pour les Bleus, suivie d'une séance de vidéo, et ensuite c'était repos cet après-midi avant départ à 18h pour la salle avec cette finale qui sera à 20h. Et au niveau de l'état d'esprit, Alex, on en a beaucoup parlé depuis plusieurs jours, depuis le début de cette phase finale. Il y a un peu le paradoxe d'une première médaille qui est assurée depuis 1953, mais le sentiment que c'est vraiment pas fini le travail. C'est pas question de se contenter de la médaille d'argent pour les Françaises, même si en face il y a les intouchables américaines qui sont, tu l'as dit, invaincues depuis 20 ans en compétition internationale. Alors après chaque qualif, quand on parlait avec les Bleus, on les sentait en mission. Il n'y avait jamais d'effusion de joie outre mesure dans les couloirs de la Uber Arena de Berlin. Elles répétaient que c'était qu'une étape vers ce qu'elles sont venues chercher, c'est-à-dire une médaille d'or et rien d'autre. Alex.
Très bien, c'est complet. Merci Félix. Justement, on va accueillir un ancien de la Maison Bleue. Il est actuellement aux États-Unis puisqu'il coach en WNBA, le Sun de Connecticut. Il a été champion de France, notamment avec Villeneuve-d'Ascq. Il a été en finale de l'Euroleague également, mais surtout, il a un paquet de médailles lorsqu'il était assistant de l'équipe de France. C'est Rachid Mézian qui est l'invité du Stephen Brunch.
Salut Rachid.
Salut Stephen.
Ça va, t'es en forme?
Ouais, ça va très
merci,
bien.
Merci, moi je suis en pleine forme. Merci d'être avec nous. Rachid, je serais content de t'avoir parce que toi, tu es peut-être le mieux placé. Tu connais tout. Tu connais les joueuses de l'équipe de France. Tu connais les joueuses de Team USA que tu affrontes depuis deux ans en WNBA. Tu connais le jeu FIBA. Est-ce que l'enthousiasme du peuple français pour faire tomber cette équipe américaine invaincue depuis 20 ans en compétition majeure, il est légitime, Rachid?
Bien sûr. Il est complètement quand tu vois l'évolution de cette équipe de France depuis quelques années et le niveau affiché sur la compétition, l'enthousiasme est tout à fait légitime. En tout cas, c'est mon point de vue.
On a vu Team USA souffrir sur cette Coupe du Monde en poule contre les Italiennes, hier aussi un petit peu contre l'Espagne. Il y a un collectif qui est très pauvre parce qu'il n'y a pas beaucoup de préparation. Il manque quelques joueuses très importantes dans cet effectif-là. Elles ont perdu des joueuses un peu mythiques. Et il y a aussi ce mythe qui est tombé puisqu'il y a beaucoup de joueuses françaises qui jouent en WNBA. Tu les trouves comment, toi, cette équipe américaine? Tu les trouves plus faibles qu'il y a deux ans à Paris?
Ouais, je sais pas si le terme c'est faible, mais en tout cas je les trouve moins prêtes. Je pense que c'est aussi une période de transition pour elles, comme tu l'as bien mentionné. Il y a quelques joueuses qui font pas partie du roster actuel. Voilà, donc ça les met dans une position un peu délicate qu'elles ont peut-être pas l'habitude de vivre. Mais en tout cas, on voit clairement qu'elles manquent de préparation. Il y en a beaucoup aussi qui découvrent un peu la compétition FIBA, même si elles ont participé à des compétitions jeunes. Je pense que la compétition senior, c'est encore un autre niveau. Donc voilà, moins prête, ça c'est une évidence. Et puis voilà, les résultats des phases de groupe et des premiers matchs phase finale aussi le témoignent, quoi.
Il y a aussi cette fin de complexe qu'on peut avoir parce que je l'ai dit, toutes les joueuses françaises les jouent au quotidien en WNBA, et cette fin de complexe, il est incarné aussi, Rachid, par la nouvelle capitaine Gabby Williams, qui est monstrueuse sur cette Coupe du Monde, qui a amené un peu justement cette mentalité un peu de Riken, d'afficher ses ambitions et de les assumer. Est-ce que toi t'es, je vais pas dire surpris, mais ce que tu vois de Gabby Williams dans son rôle de capitaine et dans son rôle de joueuse, c'est monstrueux ce qu'elle a fait?
Ouais, je trouve qu'elle a réussi à changer un petit peu la mentalité, même si attention, Valou a fait un travail extraordinaire.
Voilà, il y a Valériga.
Voilà, tu la connais, c'est une joueuse qui a gagné partout où elle est passée aussi. Je pense que c'est une approche un peu différente, c'est peut-être une façon aussi peut-être de l'assumer un peu plus, mais ouais, elle est clairement le leader offensif de cette équipe, donc tu vois, elle le transfère aussi de par l'impact qu'elle a sur le jeu, mais tu le vois dans son discours que elle formate cette équipe à gagner, en tout cas.
Maxime.
Steve l'a dit, l'un des espoirs aussi, c'est que justement, ces joueuses américaines, on a beaucoup de Françaises qui jouent en WNBA et qui du coup les affrontent au quotidien et qui du coup progressent dans ce qui est la meilleure ligue de basket au monde. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 10 ans, moi j'ai pas souvenir d'avoir, une ou deux joueuses qui pouvaient faire un aller-retour, mais c'était pas fréquent, alors qu'aujourd'hui on a, je crois, 8 joueuses dans l'effectif qui sont en WNBA. Qu'est-ce qui attire chez les recruteurs WNBA? Qu'est-ce qui donne envie de recruter des Françaises aujourd'hui et pourquoi avant ça n'existait pas et qu'aujourd'hui c'est ça semble plus évident?
Parce que je le dis souvent, on a souvent eu cette réputation en tant que joueuse française et peut-être même joueur français d'être catalogué un petit peu athlète et puis bon défenseur voire très bon défenseur, et je trouve qu'aujourd'hui en tout cas, on montre d'autres aptitudes, on montre des qualités de scoreuse. On a beaucoup de ces joueuses aujourd'hui qui ont un impact assez significatif en WNBA de par leur qualité de scoreuse. Donc, je pense que ça a changé la donne. On n'est plus que des défenseurs. On est aujourd'hui des gens qui sont capables à la fois de défendre. On reste des athlètes, mais surtout maintenant des joueuses qui peuvent mettre des points, quoi. Et je pense que ça c'est quelque chose que voilà qui nous a rendu beaucoup plus attractif.
Rachid Mezian, coach WNBA du Sun de Connecticut et ancien assistant de l'équipe de France, et l'invité du Stephen Brett.
Rachid, fais-moi ton petit scouting report. Sur quoi ça va jouer ce soir? Ça va être quoi la clé pour les Françaises?
Ouais, je pense que si la France continue à développer le basket qu'elle joue depuis le début de la compétition, monter en puissance pendant ces 40 minutes, voilà, je pense que voilà, pour moi, elles sont favoris. Une fois de plus, hein, j'enlève pas le palmarès de cette équipe américaine, l'histoire, mais j'ai l'impression que voilà, elles sont un peu moins prêtes aujourd'hui, et l'équipe de France, elle est sur un nuage, et je pense que tu vois. tout le monde a accepté son rôle, elles ont accepté aussi les rôles de chacune dans l'équipe, et je pense que ça fait la force de cette équipe aujourd'hui. Tout le monde est capable de rentrer, de contribuer. Je pense que si elles arrivent à limiter un peu l'impact qu'elles, si les Françaises arrivent à limiter un peu
sur
l'impact
les duels.
Si elles arrivent tout simplement à continuer à faire ce qu'elles font, pour moi ça devrait leur sourire à la fin. Et bien sûr continuer à avoir le même niveau d'adresse, parce que c'est vrai que à ce niveau-là l'équipe de France est quand même assez
monstrueuse. Rachid, toi c'est la trêve en WNBA, t'es resté là-bas. C'est quoi l'impact de cette Coupe du Monde là-bas aux États-Unis? Est-ce que Team USA est beaucoup suivi, ou finalement tout le monde va regarder Ben Shelton et la finale de l'US Open?
Non, de toute façon, le basket féminin a pris un vrai virage, donc le basket il est suivi. Tu peux assister aux matchs et regarder les matchs sur pas mal de chaînes nationales maintenant. Non, il y a un vrai engouement. Et pas qu'au niveau du public de basket, quoi. C'est quand même assez généralisé. L'effet Caitlin Clark, Angel Reese, a mis le basket féminin sur une autre planète. Donc, on parle de basket féminin un peu partout. Hein.
Parfait. Merci beaucoup, Rachid, pour ton analyse. Bon match. Passe une bonne journée, parce que c'est tôt. Ouais. Et merci de t'être réveillé si tôt pour venir
plaisir.
Me voir, Rachid. Merci beaucoup.
Ciao, plaisir. Bye bye.
Rachid Mezian, coach WNBA, ancien assistant de l'équipe de France avec la Belgique. Mais oui, Stephen, c'était en 2023. En tout cas, il m'a convaincu. Il faut être confiant pour ce soir.
J'ai pas entendu quelqu'un émettre le moindre doute.
Favori, c'était fou quand même. On est favori. Ah ouais.
Eh ouais, mais pour gagner, faut y croire.
T'es convaincu que c'est un coach WNB qui te l'a dit, t'as convaincu.
Ah, mais là, moi, pendant les pauses en NFL, entre chaque point, je regarderai le match sans problème.
Et tu as raison. Et tu pourras l'écouter sur RMC. Soirée spéciale After Live avec Georges Quieno et Steve Brun ce soir pour États-Unis France, finale de la Coupe du Monde.
Merci beaucoup, les amis. Merci, Maxime. Bon NFL ce soir. Merci, Alex. Merci, Jimmy, en régie, qui vient d'envoyer 50 balles sur la victoire
et allez, les
de
bleus.
France face aux Américaines. Le Steve Brunch, on se retrouve la semaine prochaine, mais restez bien sur RMC. Comme Alex l'a dit, c'est une très grande soirée de sport français que vous allez vivre en direct et en intégralité sur RMC. Ciao, ciao.
RMC, 13h-15h, Stephen Brunch.